Vous êtes sur RTL.
Merci à vous, cher Julien, et toutes nos pensées à l'équipe des Petits Matins. Nous continuons, nous, à analyser les résultats du premier tour des élections. Ce sera le cas d'Olivier Bost, qui revient sur une gauche qui se rêve en premier parti de France. À 7h10, on en est loin. À l'autre bout de l'échiquier, l'invité politique de notre matinale, Thierry Mariani, eurodéputé, candidat soutenu par le Rassemblement National en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il répondra aux questions de Benjamin Sportouche au lendemain de la liste d'union de la gauche de Monsieur Félizia. Et puis, nous nous intéresserons ce matin aux jeunes abstentions. Reportage à Cergy-Pontoise, où ceux qui n'ont pas voté sont près de 80%. Nous recevons Jade Zahab, qui est auteur de Retrouver la République aux éditions du Cherche Midi. Il sera à 7h15. Nos rendez-vous habituels avec le sourire, les grosses têtes juste avant 7h30. Nous serons bien entendu avec Laurent Gérard à 8h45. Et puis ce matin, sachez que notre ami Cyril Lignac viendra vous donner tous ses conseils pour vous préparer une tarte tatin salée juste avant 9h. Ce sera bien agréable. Merci infiniment d'être fidèle à RTL. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
L'équivalent de 2 mois de précipitations en 1 heure seulement. La ville de Beauvais est victime hier soir d'un véritable déluge.
Des rues entières inondées, l'hôpital de la ville sous l'eau. Et ce matin, une personne portée disparue.
L'eau est montée à 60 cm, mais à torrent quoi. Le bitume là, s'est décroché de la route. On voit les voitures qui se déplacent, le bitume qui vient s'encastrer dans les voitures. C'est impressionnant. Hein.
Et nous rejoindrons Sinamir sur place dans un instant. 30 ans après sa condamnation pour le meurtre de Guylaine Marshall, Omar Radad va tenter de faire réviser son procès. Gracié en 98, le jardinier marocain reste officiellement toujours coupable. Dans ce journal également, la réouverture des discothèques. Enfin, ce sera le 9 juillet. Entre alliance, fusion et retrait, nous évoquerons aussi la préparation du second tour des régionales. Et puis, les Bleus déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro grâce au calcul des points, avant même donc le match demain soir face au Portugal.
La politique, Olivier Bost.
Avec l'abstention qui autorise tous les espoirs, la gauche rêve de devenir le premier parti de France de ces régionales.
Vos explications dès la fin du journal.
RTL Matin.
Météo France ne prévoyait qu'une vigilance jaune. C'est pourtant un orage dévastateur qui s'est abattu hier soir sur la ville de Beauvais, dans l'Oise. Une heure de déluge sans interruption, l'équivalent, nous vous le disions en titre, de 2 mois de précipitation. Bonjour Sinamir.
Bonjour.
Vous êtes sur place et vous ne pouvez ce matin que constater les dégâts.
Oui, on le voit notamment dans le quartier des Voisins-Lieux, dans le Bas-Beauvais, le long de ce bras de rivière brunâtre. Le terrain est tout autour, dans ces petites rues, ces plaques de bitume, de chaussées complètement emportées par les flots et qui se glissent encore ce matin en tas sous les pare-chocs des voitures. Alors désormais, l'eau s'est écoulée. C'est allé très très vite hier soir entre 22h et 23h. Les agents de la municipalité commencent à nettoyer ces petites rues. Christian, un voisin, n'en revient toujours pas ce matin d'avoir vu hier soir des voitures charriées par les flots.
Et bon, là, il y en a qui ont été dégagées, mais cette nuit, les voitures elles étaient les unes sur les autres, hein, carrément, incroyable. Il y avait une voiture qui voulait passer, là, elle a été noyée jusqu'au pare-brise, et les gars, ils ont sorti comme ils ont pu, on va se faire emporter par la rivière.
Vous habitez ici depuis combien de temps ?
20 ans.
Jamais vu ça ?
Non, mais personne, hein, dans le coin, jamais.
Alors les recherches sont toujours en cours ce matin après qu'un important dispositif de secours ait été déployé pour retrouver une personne qui aurait pu tomber dans ce petit bras de rivière du terrain. Mais pour l'instant, on ne voit pas les hommes tout autour de nous qui savent faire vu qu'il est encore difficile d'avancer dans certaines petites rues du bas de Beauvais. L'hôpital également de la ville a été inondé dans ses fondations.
Merci beaucoup Sinamira à Beauvais pour RTL. Un peu avant, fin d'après-midi, c'est la ville de Reims qui a dû essuyer elle aussi un violent orage, le troisième épisode de ce type en 15 jours.
Météo France met en garde contre de nouvelles précipitations ce matin, heureusement moins importantes. Nous ferons un point météo complet avec Louis Bodin juste avant notre journal de 7h30. Il est 7h03, 30 ans après l'affaire Omar Radad. L'avocate du jardinier marocain s'apprête à déposer une énième requête en révision de son procès.
Sur la base de nouvelles analyses de traces ADN découvertes en 2015, dans l'une des inscriptions faites au mur, elle désignait alors Omar Radad comme étant le meurtrier de Guylaine Marshall. Écoutez, Sylvie Noakovic, bien connue des auditeurs de RTL pour officier aux côtés de Julien Courbet, elle défend depuis le début Omar Radad.
L'un des ADN a été retrouvé sur la porte de la chaufferie à 35 reprises et uniquement sur et à proximité des lettres ensanglantées. Ce fait nouveau bouleverse tout cet élément et fondamental qui démontre qu'on ne peut que réviser ce procès.
Qu'est-ce qu'il espère aujourd'hui Omar Radad ?
Omar Radad souhaite son nouveau procès. Il souhaite être acquitté puisqu'il n'a jamais commis ce crime. Il aimait beaucoup Madame Marshall. Il n'y a plus aucun argument pour considérer qu'on ne puisse pas réviser. Les arguments aujourd'hui sont scientifiques. Et on ne peut pas contester un argument scientifique.
Maître Sylvie Noakovitch, interrogé par Jean-Alphonse Richard, condamné à 18 ans de prison en 1994, Omar Radad avait bénéficié d'une grâce partielle 4 ans plus tard accordée par Jacques Chirac, mais ce qui, aux yeux de la justice, ne l'innocente toujours pas.
Tous les détails à 8h20 avec Maître Noakovitch qui sera avec nous en direct dans ce studio.
La reprise du procès Mila hier à Paris, 13 personnes jugées pour avoir harcelé la jeune fille après ses propos polémiques sur l'islam. Plusieurs d'entre eux ont été entendus, la plupart ont exprimé des regrets. Mila, de nouveau présente à l'audience, est revenue sur le calvaire enduré depuis les premières menaces de mort. Malgré tout combative, je ne me soumettrai pas, a de nouveau affirmé la jeune femme. Et puis, l'ouverture aujourd'hui à Nantes du procès du quadruple meurtre des Troadec, Hubert Caouissin, jugé pour avoir massacré son beau-frère Pascal Troadec et toute sa famille, qu'il soupçonnait d'avoir caché des lingots d'or dont ils auraient hérité, un trésor dont les enquêteurs n'ont jamais pu prouver l'existence.
Il est 7h05, le monde de la nuit soulagé avec enfin une date de réouverture pour les discothèques, ce sera le 9 juillet.
Avec une jauge réduite à 75%, un pass sanitaire exigé à l'entrée, mais pas de masque obligatoire, les professionnels n'en voulaient pas. Les boîtes de nuit s'apprêtent donc à lever le rideau pour le grand bonheur des jeunes amateurs. Reportage du Cabougue.
Après 16 mois de fermeture, la nuit reprend vie pour le plus grand bonheur des habitués des boîtes de nuit.
On veut juste se retrouver à plein, s'ambiancer sur des gros sons et kiffer hein, tout simplement.
Rose et Dana s'y voient déjà.
Danser, rencontrer des gens.
Et ouais, faire des rencontres surtout.
Shaïma, 22 ans, reconnaît que c'est une bonne chose, mais elle ne fera pas partie des clubbeurs le 9 juillet, même si tout le monde est vacciné.
C'est un endroit fermé, on se retrouve avec plusieurs personnes, il n'y a pas de distanciation. On est tous collés, on transpire et je trouve que niveau hygiène, c'est pas trop ça quoi.
Si la pandémie a rendu Shaïma plus vigilante, le pass sanitaire suffira à rassurer Ilan, 21 ans.
Le pass sanitaire, il m'a l'air plus sûr que juste un papier, un test de labo ou un résultat négatif ou des documents qui peuvent facilement être falsifiés.
Mais d'autres, comme Maxime, vont pourtant essayer de ruser.
J'ai 2-3 plans sur Snap, pass sanitaire, donc pas forcément besoin de vaccin ni de test PCR quoi. En monnayant, on peut trouver ce qu'on veut, ouais.
Les vigiles devraient donc avoir fort à faire le soir de la reprise.
Reportage signé Lucas Bouguet.
Dans un instant, le tout sauf Mariani en Provençal Côte d'Azur, il y aura bien un front républicain. La gauche jette l'éponge. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Il est 7h07, la suite du journal de Dominique Tenza. Alliance et tractation, lendemain du premier tour des élections régionales. Les candidats ont donc jusqu'à ce soir, 18h, pour déposer leur liste.
En PACA, le candidat de la gauche, Jean-Laurent Felizzi, a été bien décidé hier matin à maintenir la sienne. Mais sous la pression des Verts et du Parti Socialiste, il appelle finalement à voter Renaud Muselier pour faire barrage à Thierry Mariani et au Rassemblement National.
L'écart entre Renaud Muselier et le candidat de l'extrême droite est hélas plus élevé que celui qui a été annoncé dans les premières heures de la soirée et nous a mis face à nos responsabilités. Il n'y avait en vérité pas de bon choix. Dimanche, je voterai pour Renaud Muselier pour battre Mariani et sa triste cohorte.
Alors, propos recueillis par Hugo Hamelin.
Thierry Mariani qui sera justement l'invité de Benjamin Sportouche à 7h40 sur RTL, invité politique de notre matinale.
Et puis en Ile-de-France, une alliance qui peut surprendre tant leur programme était parfois différent. Les Verts, les Insoumis et les Socialistes fusionnent derrière le candidat écologiste Julien Bayou. Leur objectif, faire tomber Valérie Pécresse, la présidente sortante.
On passe à l'Euro, direction Budapest.
L'Euro sur RTL.
La Hongrie est le stade très bruyant de la Puskás Arena où les Bleus rencontrent demain soir le Portugal, même si les hommes de Didier Deschamps sont déjà assurés de disputer les huitièmes de finale grâce aux points obtenus. On suivra tout de même la rencontre avec intérêt car l'objectif de nos Bleus c'est bien de terminer premier de leur poule. Le sélectionneur ne devrait donc pas trop modifier l'équipe type alignée lors des deux premières rencontres, même s'il aura à cœur, Philippe Sanfourche, de ménager un peu l'effectif.
Oui, c'est le dilemme pour Didier Deschamps et son staff. Comment peaufiner les automatismes tout en ménageant les corps fatigués? Le sélectionneur souhaite roder à nouveau son trio offensif. Mbappé, Griezmann, Benzema, sans bouleverser non plus son milieu de terrain où seul Corentin Tolisso paraît en mesure de bousculer un peu la hiérarchie. Si en défense, Benjamin Pavard, en difficulté depuis le début de la compétition, sent la menace Jules Koundé poindre derrière son épaule. C'est seulement ce soir, après le dernier entraînement, que Didier Deschamps fera ses choix.
J'attendrai pour voir la récupération des uns et des autres, mais ça ne sera pas sanction ou quoi que ce soit. J'aurais pu faire d'autres changements aussi sur le deuxième match. Là, je vais bien réfléchir en faisant en sorte d'avoir tous les éléments et oui, avoir du monde dans ma tête.
Avec une seule certitude, l'absence désormais définitive pour l'Euro d'Ousmane Dembélé, blessé, qui va permettre à Kingsley Coman d'entrer en cours de jeu. L'attaquant du Bayern volontaire, saignant lors des dernières séances d'entraînement.
Il y a du monde dans sa tête. C'était Philippe Sansfourche. J'ai pu noter hier soir la qualification de l'Autriche et du Danemark. Pour terminer ce journal, tiens, une idée, lecture.
Volontiers.
Si vous aimez lire ou plutôt écouter des histoires, en voici une peu banale, le narrateur l'est également.
Ah bon ?
Nicolas Sarkozy, l'ancien président, a choisi de se prêter au jeu du livre audio en donnant sa voix à ses mémoires, Le Temps des Tempêtes, ouvrage sorti l'été dernier, et qui raconte la première moitié de son quinquennat. Et qui d'autre que lui pour raconter tout ça? Écoutez-le, c'était comme une évidence.
Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le Temps des Tempêtes. Il ne s'agit pas de lire, il s'agit d'interpréter. Je ne suis pas un comédien, il y a certainement beaucoup de gens qui auraient pu le lire bien mieux que moi, mais il m'a semblé que Le Temps des Tempêtes était tellement lié à moi que faire lire Le Temps des Tempêtes par quelqu'un d'autre, c'est en quelque sorte comme une trahison.
520 pages, hein, ah ça oui. Fait quand même 13 heures de lecture. Bon, faut aimer Nicolas Sarkozy. Ou alors se le faire en plusieurs bouts, c'est aussi une possibilité.
Je franchis une porte et me retrouvais dans une large pièce, assez dépouillée.
C'est une véritable histoire.
Le pape m'attendait à l'intérieur, debout, tout de blanc vêtu, avec des chaussures rouges. La reine était souveraine. Au sens propre comme au figuré.
Sans elle rencontre avec le pape sorti du livre le 7 juillet pour les vacances.
Je ne savais pas qu'ils illustraient musicalement.
Si,
c'est assez troublant.
Avec de l'ambiance, avec
très
du suspense,
bien,
avec
parfait.
Tout.
Les courses, elles, ont lieu à Nantes, voilà.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 6, le 10, le 4, l'As, le 2, le 3 et le 8. La dernière minute, c'est l'As, la Roselière.
C'est Dominique Tenza qui nous proposait le journal de 7h. Eh bien justement, il est 7h12, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors expliquez-nous Olivier, le Parti Socialiste veut devenir le premier parti de France ?
Oui, au régional, hein. Oui. C'est une déclaration d'Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, avec vous, sur RTL, qui m'a interpellé hier matin. La gauche peut gagner 7 régions dimanche prochain, a-t-il dit. Elle en dirigeait 5 depuis les élections de 2015, 5 régions socialistes avec des alliances plus ou moins larges. 2 régions de plus, ce serait avec les écolos qui se voient gagner l'Île-de-France et les Pays de la Loire. Et pendant qu'on y est, Olivier Faure estime aussi qu'il y a 2 places à prendre à la présidentielle, celle d'Emmanuel Macron et celle de Marine Le Pen. C'en serait fini du duo de la précédente édition.
Alors, quand on regarde tout cela d'un peu plus près, est-ce réaliste, cette région, pour les socialistes ?
Alors, c'est maximaliste. Oui. Hein. Olivier Faure s'appuie sur des chiffres globaux et des situations locales très disparates. Mm-hmm. Le score national de la gauche donne plus de 34% des voix, quand la droite en a recueilli 29%. Les autres, je vous le rappelle, sont loin, à très loin derrière. Le vieux monde est donc de retour. Olivier Faure table sur des victoires en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne et en Occitanie, sans les écolos. Une victoire en Pays de la Loire derrière les écologistes et puis alors des unions à la carte qui dépendent en fait des scores et des ententes locales. Olivier Faure compte aussi dans son calcul la Bourgogne-Franche-Comté, le centre-Val de Loire et sur une victoire en Île-de-France. Et là, avec tout le monde. Ce n'est pas complètement fou, mais c'est très optimiste. Oui. Pas fou parce qu'après tout, la région Île-de-France a été dirigée par la gauche, par Jean Beluchon, pendant 17 ans quand même. C'est optimiste parce que ça veut dire que l'alliance derrière les écologistes, avec les socialistes, avec la France insoumise et avec le Parti communiste, referait le plein et progresserait au second tour. C'est déjà arrivé dans l'histoire des régionales. C'est pour ça que Valérie Pécresse a, bien avant dimanche, menacé du retour de la gauche sectaire à la tête de la région la plus riche de France. Hier, elle a dénoncé une gauche qui a perdu sa boussole républicaine en reprenant les mots d'Anne Hidalgo sur ses amis écolos.
Bon, est-ce que c'est un argument qui peut porter ?
Alors, c'est un côté un peu le retour des chars russes. Hein. En 2021, c'est l'islamo-gauchisme, oui, le woke et l'écriture inclusive. Alors, tout ça, je suis d'accord, c'est pour un public assez averti.
Très averti, même.
Mais Christian Jacob, le patron des Républicains, est même allé un peu plus loin hier. Il demande aux listes LREM de se retirer dans 3 régions pour empêcher la victoire de cette gauche qui va jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Une forme de réciprocité quand d'autres se retirent bien pour éviter une victoire du RN. Autant vous le dire franchement, je ne suis pas sûr que ces appels, ce retour triomphant et ces vieux clivages mobiliseront les électeurs qui ne sont pas allés voter dimanche.
Merci beaucoup Olivier Bost. On vous retrouve sur le site RTL.fr. À 7h40, je vous le rappelle, Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement National en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sera l'invité de Benjamin Sportouche. Dans un instant, retour sur le vote, ou plutôt le non-vote. Reportage à Cergy Pontoise auprès des jeunes qui ne sont pas allés voter. Près de 80% de la population dans son ensemble, hein, je vous le rappelle. Et puis l'analyse de Jade Zahab pour redonner l'envie d'aller aux urnes.
RTL Matin, 7h-9h30,
avec Yves Calvi.
Il est 7h17, nous continuons ce matin d'analyser les résultats des élections régionales et départementales de ce dimanche. Gros plan sur le vote jeune ce matin, direction Cergy dans le Val-d'Oise. Dans cette banlieue, très peu de jeunes gens sont allés voter, des jeunes filles d'ailleurs, et ça se vérifie dans le centre-ville, les quartiers sensibles ou même à l'université. Bonjour Valentin Boisset.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Certains jeunes que vous avez rencontrés disent qu'ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait une élection et que dans tous les cas, ils ne se seraient pas déplacés. Le même discours revient à chaque fois, les politiques ne nous écoutent pas ou ne servent à rien.
Oui, difficile de trouver un seul 18-24 ans qui aurait voté dimanche.
Mais je suis pas allée voter.
Moi, j'ai pas voté. Moi non plus, j'ai pas voté.
Dimanche, on savait même pas qu'il y avait des élections. Ouais, on l'a appris tout à l'heure.
Alors devant la mission locale, les panneaux électoraux sont pourtant bien en place, mais dans l'indifférence de tous les regards. En face, il y a un petit groupe assis, 5 jeunes hommes de 20 ans, tous abstentionnistes dimanche. Karim et Ryan n'ont aucun mal à l'assumer. Ils ne se sentent tout simplement pas concernés.
Les programmes. Pas les programmes, mais les cartes électorales pour voter. En fait, j'ai carrément juste oublié.
On était hyper connectés pendant un moment et on n'est même pas au courant qu'il y a une élection. Mmh. C'est vraiment qu'on a perdu l'intérêt en fait, pour la politique. J'ai pas envie de donner du temps pour ça en fait. Et on essaie de trouver un travail tout ça et on n'y pense pas forcément en fait.
Pourtant la chose politique les intéresse. Tous disent avoir déjà manifesté dans les rues pour certaines causes.
Ouais, on en parle mais c'est pas vraiment avec ces dirigeants-là qu'on se dit qu'on y voit un bel avenir. Ils se préoccupent pas vraiment de notre bien. Quoi.
Mais c'est, pas qu'ils nous aident pas. Parfois on ressent que c'est vraiment une petite guéguerre entre eux, tu vois.
Chacun a son but et ils n'écoutent pas réellement les autres.
Ils se disent aussi délaissés. Deux sont à la recherche d'emploi depuis quelques mois avec un sentiment d'abandon qui s'est accentué durant la crise sanitaire.
Ça a pu jouer un peu le fait de se sentir délaissé. Parce qu'on se dit que, bon, il n'était pas là la dernière fois. Qu'est-ce qui me dit que la prochaine fois il sera là si je m'investis ?
Dans cette zone, l'abstention a atteint plus de 80% ce dimanche.
Alors, tous ces jeunes, justement, Valentin, ils aimeraient quoi concrètement ? Ils ne sont pas totalement détachés du politique ? Y a-t-il des thématiques qui les animent ? Des choses qui pourraient leur permettre de revenir vers le vote ?
Oui, tous disent avoir des convictions, des envies très différentes.
L'écologie.
Le système scolaire.
L'avenir de la jeunesse.
La cause animale et l'enseignement aussi.
Angie et Sephora, par exemple, 23 ans, habitent un quartier qu'ils qualifient eux-mêmes de difficile à Cergy. L'aménagement leur tient à cœur. Angie s'était alors engagée à l'échelle du quartier il y a quelques années, puis n'a plus jamais voté.
On prend pas trop les jeunes au sérieux. Mais en gros, ça va changer quelque chose par rapport à la ville. Qu'il y aura des projets qui vont se mettre en place. Mais ça change rien du tout, en vrai. J'ai lâché l'affaire, ce monde de politique, ça m'intéresse vraiment plus.
Avec son ami Sephora, ce qu'ils veulent, c'est que les politiques reviennent à leur rencontre. Non pas le temps des campagnes, mais toute l'année. Ils parlent parfois des incursions d'Emmanuel Macron chez McFly et Carlito, par exemple. Mais ce qu'ils souhaitent, c'est rencontrer ces élus eux-mêmes dans la vraie vie.
Ils ont essayé de parler, hein. Ça c'est vrai, je pourrais pas mentir.
Mais ils n'ont pas assez parlé. Moi, je pense qu'ils devraient plus parler avec les jeunes.
D'aller voir les cités, les quartiers, comment ça se déroule et tout. Si je voulais être élu en tant que maire ou président, la première chose que je ferais, c'est d'aller en contact avec les citoyens. Ça, c'est une base.
Un dialogue rompu qui se manifeste ensuite dans l'impossibilité de comprendre les enjeux du vote.
Pour moi, c'est trop compliqué, surtout en ce moment. Je vois pas l'intérêt de voter, en fait.
Luna et Sarah étudient à l'université de Cergy. Pas de vote dimanche, car département, région, tout cela est bien trop compliqué, tout comme les programmes électoraux. Elles en appellent donc à la pédagogie.
Savoir pourquoi on vote, à quoi ça sert. Je sais pas si ma voix va compter, si je m'abstiens, ça va changer quelque chose. Quand on n'est pas porté sur la politique, en fait, on sait jamais ce qui se passe, et peut-être des campagnes sur les réseaux où ça nous pousserait plus à nous renseigner, par exemple.
En attendant, Karim, Ryan, Angie, Sephora, Luna, tous ont déjà pris leur décision pour dimanche prochain. Ils s'abstiendront une nouvelle fois.
Merci Valentin Boisset, bonjour Jade Zahab.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, diplômé de l'École des affaires publiques de Sciences Po. Vous avez publié « Retrouver la République », c'est aux éditions du Cherche Midi. Vous travaillez depuis plusieurs années sur les problématiques mêlant jeunesse et vote. 87%, je le rappelle, des 18-24 ans ne sont pas allés voter dimanche dernier. Vous les avez entendus dans ce reportage. D'après vous, la crise sanitaire a-t-elle fragilisé encore davantage la démocratie ?
Alors, c'est pas impossible que la crise sanitaire ait joué un rôle dans cette abstention importante, mais je crois que nos politiques doivent aussi faire leur introspection et ne pas oublier qu'il y a des causes beaucoup plus profondes. Et on l'entendait à très juste titre dans les prises de parole à l'instant. Les jeunes ne se sentent pas représentés, les jeunes ne comprennent pas, et finalement, ils se sont éloignés de la chose publique. Donc, la crise sanitaire, c'est une chose, mais il y a aussi l'idée que ces jeunes-là, on l'a dit, la crise sanitaire a renforcé la question des difficultés sociales, du logement, de l'emploi, et donc il y a une nécessité que les politiques parlent à nouveau aux jeunes.
Expliquez-nous, c'est de la défiance poussée à l'extrême ?
Alors, moi j'appelle ça une crise des consentements, c'est-à-dire que le politique a oublié de recréer du lien entre ce qui sont les institutions et les citoyens et les jeunes. Et donc je crois que ça s'exprime dans l'abstention. Il y a l'idée que les règles institutionnelles ne sont pas adaptées, peut-être qu'il faudrait plus de proportionnel, plus de représentativité. L'idée qu'il y a un manque de transparence, on ne sait pas comment fonctionnent les institutions. Et puis, l'idée qu'on ne se sent pas représenté, je crois que c'est le plus important.
Mais vous l'avez entendu, même les jeunes gens qui intervenaient nous disaient, qu'ils les voyaient sur le terrain, ces responsables politiques, et est-ce que c'est une pure provocation quand ils nous disent qu'ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait une élection ? Je n'arrive pas à le croire.
Alors honnêtement, pour avoir discuté avec beaucoup de jeunes, notamment là depuis dimanche, beaucoup n'étaient pas au courant. Le fait qu'il y ait des élections régionales et départementales, je crois que même au-delà des simples jeunes, beaucoup n'étaient pas informés de cela.
Pardonnez-moi, mais il n'y a pas que des panneaux de vote, il y a les réseaux sociaux.
Bien sûr.
C'est présent. Il y a un bruit de fond qui existe quand même quand il y a une élection.
C'est vrai, mais en l'occurrence, cette élection a été très nationalisée. Et une autre des raisons qui, à mon avis, explique le fait que les jeunes n'ont pas eu envie d'aller voter, et là, pour le coup, on peut les comprendre, c'est qu'il y a, depuis quelques semaines en France, un climat politique absolument délétère, un débat politique complètement nauséeux, avec des fake news, avec des polémiques nationales. Hein. Oui. Et donc ça, honnêtement, ça ne donne pas du tout envie à des jeunes qui sont préoccupés par est-ce qu'ils vont réussir à payer leur loyer ou est-ce qu'ils vont réussir à trouver un emploi. Ça donne clairement pas envie. Donc là-dessus, je dis que les politiques ont une responsabilité.
Qu'est-ce qu'on fait pour les ramener devant les urnes ?
Alors, si la réponse était aussi facile, on aurait déjà résolu le problème. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut rendre notre système plus représentatif. Moi, dans le livre, je propose qu'on introduise la proportionnelle, qu'on reconnaisse le vote blanc aussi, parce que beaucoup de cette abstention, ça n'est pas qu'une abstention passive. Des gens décident de ne pas aller voter pour envoyer un message.
Donc, il faut le reconnaître. Des vieilles recettes pour faire revenir les jeunes ?
Des vieilles recettes, mais des nouvelles aussi. En l'occurrence, par exemple, prendre en compte le vote numérique. Vous savez, aux États-Unis, le vote à distance, ça peut être un vrai enjeu. Introduire le non-cumul des mandats aussi. Mais je crois qu'il faut qu'on vive avec notre temps. Et en l'occurrence, l'élection en 2017 avait permis de rajeunir l'Assemblée nationale. Oui. Il faut encore la rajeunir. Et le changement du mode de scrutin, on peut avoir l'impression que c'est une vieille lubie. Mais quand on regarde l'Assemblée et qu'on ne s'y sent pas représenté, forcément, ça donne pas envie de voter.
Vous êtes en train de nous dire que les jeunes Français veulent tout simplement des représentants qui leur ressemblent un peu plus.
Mais bien sûr. Je crois qu'on ne consent qu'à une autorité qui nous ressemble. Et donc, c'est normal que les jeunes aient cette envie-là. Il y a des droits et des devoirs aussi. Il ne s'agit pas de dire que c'est la faute que des politiques, mais il faut entendre. Parce que vous le disiez à juste titre, il y a une citoyenneté passive dans les urnes, oui. Mais il y a une citoyenneté active où ces jeunes qui sont allés se mobiliser pour le climat, sur les réseaux sociaux. Donc il ne faut pas dire que les jeunes ne sont pas intéressés, simplement il faut changer les règles pour qu'ils le soient plus.
Vous nous dites aussi, allons les chercher sur leur terrain. Merci beaucoup, Jadzahab.
Merci à vous.
Je renvoie volontiers à votre livre « Retrouver la République face à la crise des consentements. Réinventons la citoyenneté » paru au Cherche Midi éditeur. Bonne journée à vous.
Merci à vous aussi.
Dans un instant, nos grosses têtes, la météo de Louis Bodin et la pépite musicale signée Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour et bonjour à tous.
Et à tout de suite.
Ouais, tout de suite.
Passez une bonne journée sur RTL. RTL, toujours avec vous. RTL Matin, Yves Calvi.
Anthony Martin, bonjour.
Bonjour.
Il est temps de découvrir notre pépite musicale, nous vous écoutons.
Alors on va faire un tour en 1985, année où les Rita Mitsouko ont inventé le rock latin et réussi l'exploit de nous faire danser tout l'été sur une oraison funèbre avec Marcia Baila, un hommage à Marcia Moreto, danseuse argentine dont Catherine Ringer adorait la fantaisie, danseuse emportée par un cancer à l'âge de 32 ans. Plus d'un million de disques vendus en France et cette chanson s'est exportée en Amérique latine et dans les pays anglo-saxons. Les Rita Mitsouko ont donc enregistré à l'époque une version de Marcia Baila en anglais avec des arrangements un peu différents. C'est une curiosité, c'est notre pépite du jour. La version anglaise de Marcia Baila par les Rita Mitsouko. Saint-Tour était sorti en 1986 en Angleterre et aux États-Unis. L'Erita Mitsuko avait la cote là-bas. Il représentait quelque chose de très moderne, d'ambitieux. Et leur esthétique a inspiré tant d'artistes que le vidéoclip de la chanson Marcia Baila fait aujourd'hui partie des collections permanentes du MoMA de New York, le musée d'art moderne de la ville.
Merci beaucoup Anthony, on se dit à demain pour une nouvelle pépite et à tout moment podcast via l'appli RTL. Notre rendez-vous avec les grosses têtes, nous vous parlions de l'arrivée de Sébastien Thoen dans l'équipe et les grosses têtes bolent passe gentiment sur le grill pour en savoir un peu plus sur lui.
Vous-même vous êtes marié monsieur Thoen?
Alors ça il faut demander à ma femme, je vous dis. Je suis plus que marié, je suis lié.
Non, parce qu'on vous connaît à peine, donc on aimerait en savoir un peu plus.
Mais les gens s'en foutent, ils veulent qu'on raconte des conneries, hein, Plaza.
Ah non, les gens aiment savoir si vous avez des enfants, par exemple.
Ouais.
Il y a des petits Thoen.
Alors, il y a un petit Thoen, et il m'a fait un beau cadeau pour la fête des pères, il s'est levé à 9h hier. Du coup, je lui ai filé un biberon et j'ai même fait un bisou, c'est jamais arrivé.
Ah oui, il est tout petit alors.
Il est tout petit, il a 11 mois.
Mais c'est vrai que c'était la fête des pères.
Bah ouais, c'est vrai. Ouais. C'était... Et dans 6 mois, il grandit vite, dans 6 mois, il est à l'école coranique et tout. Bah c'est beau, c'est beau, bah c'est beau.
Et dans 3 ans, il est à Daesh.
Bah, et pourquoi pas si ça lui plaît.
Écoutez, c'est ce qu'on appelle une entrée en fanfare. L'arrivée de Sébastien Thoen dans toute l'équipe des Grosses Têtes qui vous donne rendez-vous dès 15h30 avec Laurent Ruquier. Bonjour Libaudin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Donnez-nous des nouvelles de notre météo qui est toujours aussi particulière.
Ah oh oui, exactement. Hein, on n'en sort pas, toujours aussi instable. Quand je vois les images satellites, c'est un peu déprimant parce qu'il y a des nuages quasiment partout entrecoupés de rares, très rares éclaircies. On a à peu près de l'Atlantique, alors sauf près de la Méditerranée, à eux, je les mets à part. C'est vrai que là, il y aura du soleil tout au long de la journée avec des températures digne de la saison, mais ailleurs, sous ce temps encore très nuageux, instable, accompagné d'averses, voire même un petit peu d'orage sur les Alpes du Nord, eh bien on retrouvera des températures plutôt fraîches, hein, avec des valeurs qui ne dépasseront pas les 15 à 20 degrés dans la moitié nord. Je parle bien des maximales aujourd'hui. Hein. 18 à Paris cet après-midi, 14 degrés à Cherbourg par exemple, 20 à 24 degrés dans la moitié sud, ou encore du côté de la plaine d'Alsace, où là il y a une petite poche de douceur qui résiste encore. Il n'y a que près de la Méditerranée, donc où là, avec le soleil, nous serons entre 25 et 28 degrés, sans oublier le vent qui soufflera fort sur le littoral de la Manche.
Merci beaucoup Louis Bodin. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 22 juin. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et question ce matin, savez-vous si votre mari, votre femme, vos enfants sont prêts à donner leurs organes? C'est le bonjour pour en parler car c'est aujourd'hui la journée nationale du don d'organes. Avec la pandémie, le nombre de greffes a chuté de 25%. On commence tout juste à rattraper le retard, mais les dons restent insuffisants. Or la greffe, c'est la vie. Celle de Vanessa, par exemple, greffée du cœur à 26 ans, elle en a 43 aujourd'hui. Pour elle, c'était vraiment moins une. Alors qu'on la préparait pour la transplantation, son cœur a lâché définitivement. 9 heures plus tard, un autre cœur battait dans sa poitrine.
C'est un vrai miracle parce que le cœur est reparti. J'ai pu continuer très rapidement à me lever, à faire quelques exercices physiques, à manger, à revivre. Même si psychologiquement, c'était assez difficile. C'est compliqué de recevoir l'organe de quelqu'un qui est décédé. Hein. On n'est pas du tout préparé à ça. Et donc ça a été un peu difficile à accepter. Il ne faut pas trop réfléchir à l'identité éventuelle de cette personne. Et puis, il faut vivre notre vie grâce à lui.
Vanessa au micro RTL d'Agathe Landé.
L'information de la nuit, ce sont les orages qui ont encore frappé dans la moitié nord du pays.
À Beauvais, dans l'Oise, il est tombé en une heure l'équivalent de 1 à 2 mois de pluie. La ville est inondée. Une personne est portée disparue. Quelqu'un qui serait tombé dans la rivière. Des recherches sont en cours. Inondation aussi à Reims. C'est la troisième fois en 2 semaines. Le maire Arnaud Robinet n'a jamais vu ça.
En fait, on observe un phénomène relativement rapide avec des averses sur un laps de temps relativement court. Et de ce fait, les égouts sont saturés et donc l'eau rejaillit. Donc c'est impressionnant. Et au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, il n'y a plus d'eau dans les rues. Mais par contre, bien sûr, les commerces et les caves sont inondés. Mais moi, je me mets à la place des commerçants et des riverains qui sont excédés. Et nous sommes tous excédés. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose et on ne peut pas arrêter la pluie. Mais c'est vrai que Reims, nous n'avons jamais connu 3 orages de cette intensité en 15 jours de temps.
Le maire de Reims avec Sinamir. Le procès de l'affaire Mila a repris hier à Paris. 13 personnes sont jugées pour le cyberharcèlement de cette jeune fille qui avait publié une vidéo polémique sur l'islam en janvier 2020. Depuis, elle vit sous protection policière. Mila, qui est présente à l'audience et qui a défendu hier sa liberté d'expression de fort belle façon, selon son avocat Richard Malka.
J'ai rarement vu quelqu'un qui avait autant de cran. C'est rare. Elle a été d'une intégrité incroyable, d'une profondeur. À son âge, à 18 ans, elle a tenu 2 heures sous le feu roulant des questions. Elle a été émouvante, intelligente. Elle est tombée dans aucun des pièges qu'on voulait lui tendre. Et voilà, je la trouve absolument exceptionnelle.
Maître Malka au micro RTL d'Alice Moreno. L'avocate d'Omar Radad va déposer une deuxième demande en révision de son procès. C'est une information RTL. Ce sera jeudi, 30 ans jour pour jour après la découverte du corps de Guylaine Marshall dans sa villa de Mougins. De nouveaux éléments montrent que 4 ADN masculins sont présents sur la porte, la fameuse porte où était inscrit Omar m'a tué. Le jardinier marocain a été condamné pour ce meurtre, puis partiellement gracié par Jacques Chirac en 96.
Et Sylvie Novakovic sera avec nous à 8h20.
RTL, Régional 2021.
Au lendemain du premier tour, le Front Républicain s'est finalement reconstitué en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L'écologiste Jean-Laurent Felizia, à la tête d'une liste d'Union de la gauche, avait annoncé son maintien aux côtés de Thierry Mariani et Renaud Muselier, mais sous la pression, il s'est finalement retiré et le candidat républicain s'en félicite.
Vous voulez absolument me faire dire que je suis soulagé. Je vous répondrai toujours que je suis concentré. Voilà. Il y a 24 heures, tout le monde me donnait perdant, massacré, disparu. Et aujourd'hui, c'est mon adversaire qui se retrouvait président de région hier, qui se partageait les postes et qui était déjà en train de faire venir ses copains de l'Est pour le tourisme, qui maintenant se pose des questions de savoir est-ce que je ne me suis pas trompé de campagne et de discours.
Renaud Muselier au micro RTL d'Étienne Baudu.
Thierry Mariani sera lui l'invité de Benjamin Sportouche. Dans quelques minutes sur RTL, il sera à 7h40.
En Ile-de-France, la gauche s'est unie derrière l'écologiste Julien Bayou qui a réalisé le meilleur score des 3 listes. Il rallie donc Audrey Pulvar et Clémentine Autain en espérant faire battre la favorite Valérie Pécresse. Le soulagement pour le monde de la nuit. Les discothèques pourront rouvrir le 9 juillet. Il faudra un pass sanitaire et la jauge sera réduite à 75%. Quant au port du masque, il ne sera pas obligatoire, mais fortement recommandé. Par ailleurs, les concerts avec du public debout seront de nouveau autorisés à partir du 30 juin. Jauge à 75% en intérieur, mais 100% en extérieur. Un chiffre aussi ce matin. Une mère de famille sur deux a souvent l'impression qu'elle ne va pas s'en sortir dans son travail. C'est ce que révèle le dernier baromètre de l'IFOP sur la charge mentale professionnelle. Une enquête sur la façon dont les cadres ont traversé la crise sanitaire. Résultat, eh bien, maman n'est pas loin de craquer. Reportage RTL de Franck Hanson dans le Nord.
Elle a l'impression d'avoir deux cerveaux en permanence. Mathilde, juriste en droit social, élève seule ses deux garçons. Pas évident de tout concilier.
Je crois que les femmes ont ce sentiment qu'elles doivent être les meilleures partout. À la fois être de bonnes mères de famille, épouses, copines, etc. et de bonnes professionnelles.
Pour cette cadre de 47 ans, le contexte de confinement et de travail à distance a été encore plus lourd à gérer.
Quand on croit encore que Wonder Woman existe et qu'on se dit « je vais réussir à lui faire la classe tout en travaillant, tout en lui assurant 2 repas équilibrés par jour », on est obligé de déchanter relativement vite. Mon deuxième fils qui avait 10 ans lors du premier confinement, il a passé un certain nombre de demi-journées avec un bol de chips et de tomates devant la télé.
Tracasseries administratives, sollicitations permanentes, des situations de surcharge mentale que croise régulièrement Angélique Jourdain, sophrologue à Lille.
Il n'y a plus de place pour souffler, pour respirer. Ça peut amener à des situations compliquées jusqu'au burn-out, voire même la dépression.
Et pour tenter de déconnecter à la maison, Mathilde se verrait bien prendre les airs.
Direction une île déserte et puis disparaître pendant une bonne quinzaine de jours, ouais.
Voilà, pas mieux. Un reportage RTL de Franck Hanson. Notez que selon cette enquête de l'IFOP, 92% des Français pensent au travail après les heures de bureau, c'est beaucoup. 39% n'en dorment pas et 16% pensent au travail en faisant l'amour.
L'euro sur RTL.
Les mathématiques ont parlé, les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés pour les 8e de finale avant même leur match de demain contre le Portugal. Avec les résultats d'hier soir, ils sont assurés de finir au moins meilleur 3e, mais la suite, ce sera sans Ousmane Dembélé, forfait pour tout l'Euro à cause d'une blessure au genou. Qualifiés aussi mathématiquement l'Angleterre, la Suisse, la Suède et la République tchèque. Et puis sur la pelouse, ça passe pour le Danemark avec sa première victoire de la compétition, 4-1 contre la Russie et l'Autriche qui a battu l'Ukraine 1-0.
C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. On vous retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Et nous verrons que nos séries télé préférées peuvent très bien nous manipuler, oui.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Il est 7h37. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Alors, Tesla, TikTok, Zoom, Apple, Google, vous dressez un palmarès des marques ce matin.
Oui, Yves, un palmarès des marques les plus puissante de 2020. À la faveur du confinement, certaines firmes en ont largement profité. Et quid des marques françaises? Eh bien, réponse dans un instant.
C'est vrai qu'on n'a pas encore cité Carambar.
Ça va pas tarder.
On voit ça d'un peu plus près. À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h39, l'Angléco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Le classement des marques les plus puissantes au monde vient donc d'être publié.
Oui, il a été établi comme chaque année par la société d'études Kantar, qui réalise des millions d'enquêtes chez les consommateurs dans 51 pays différents. Kantar calcule en réalité la valeur des marques. Mmh. Alors à partir des éléments recueillis auprès des acheteurs et puis à partir de la valeur de l'entreprise, c'est-à-dire du cours boursier. Des entreprises concernées. Le numéro un mondial des marques pour la troisième année consécutive, c'est le site de e-commerce américain dont le nom commence par un A. Amazon, bien sûr. La marque vaut quand même 684 milliards de dollars. Bon, ça fait 570 milliards d'euros. Numéro 2, c'est un A aussi, Apple, un peu plus de 600 milliards de dollars, suivi par Google.
Trois marques d'entreprises technologiques.
Oui, et trois marques qui ont vu leur puissance et leur valeur progresser considérablement en 2020, à cause ou grâce à l'épidémie qui a provoqué une forte croissance du numérique en interdisant les contacts physiques et les déplacements pendant les confinements, bien sûr. Mmh. 2020 est d'ailleurs une année tout à fait atypique dans l'histoire du classement Kantar, où la valeur des 100 premières marques mondiales a progressé de 42%, alors que les deux années précédentes, par exemple, c'était 6 et 7%. Vous voyez qu'on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Non. Bon, considérable, causé par la progression boursière des sociétés de la tech, hein, en particulier américaine, pendant l'année 2020. La marque qui a le plus bondi durant cette année, c'est Tesla. Les voitures électriques californiennes, plus 275%.
C'est pas vrai.
Là encore, le critère boursier est bien sûr déterminant. Au total, les 100 marques les plus importantes de la planète atteignent une valeur de 7 000 milliards de dollars. Oh, ça fait rien moins que plus de deux fois le PIB annuel français.
Bon, il n'y a pas que des marques américaines hein, parmi les plus importantes du monde.
Non, mais elles sont largement prévalentes parce que le classement privilégie les sociétés qui valent le plus cher en bourse, c'est-à-dire les technologiques, et que celles-ci, bah, elles sont largement américaines. Dans le top 10, il y a 8 américaines et 2 chinoises. Ah. Tencent et Alibaba, qui sont aussi des sociétés de la technologie, d'ailleurs, télécom et e-commerce. Toujours dans ce top 10, 3 non seulement de l'économie traditionnelle, Visa, McDo et Mastercard.
Bien. Les Français dans tout ça ?
Bah, il faut attendre la 21e place pour trouver le premier Français. C'est Louis Vuitton. Chanel, autre marque de luxe, occupe la position 40, Hermès 43, L'Oréal 48, Gucci qui appartient à la famille Pinault français 56. Et voilà, un 5 sur 100, 5 dans le luxe. Il faut dire que notre autre point d'excellence industriel, c'est l'aéronautique. Il n'a pas sa place dans le classement. Hein. Ce n'est pas les consommateurs qui achètent des Airbus, enfin, pas tous. Une bizarrerie quand même dans ce classement. Pas de Français non plus dans les marques d'alcool. Ah alors bon qu'on a quand même de quoi faire briller les cuivres. Hein. Oui. Le numéro un mondial des alcools, figurez-vous, c'est Mao Tai, un fabricant d'alcool chinois. Une boisson traditionnelle qui se vend à prix d'or.
Dites-moi, il n'y a pas de voiture française ?
Pas une ! Il faut dire que les marques françaises, Renault, Peugeot, Citroën, elles sont connues principalement en France, hein, et un peu en Europe quand même, mais quasiment pas du tout ailleurs. Il faut dire aussi que leur parcours boursier n'est pas éblouissant, ce qui n'est pas le cas des marques allemandes et japonaises, connues aux États-Unis, qui se partagent le classement automobile derrière Tesla quand même.
Eh bien, tout cela est passionnant. Merci infiniment, François Langlais. On vous retrouve aussi sur RTL.fr pour votre podcast inédit, L'Angléco hors série. Il est 7h42. Bonjour, Benjamin Sportouche.
Bonjour, Yves. Bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Le candidat Rassemblement National en PACA, Thierry Mariani, il se retrouve face à un front républicain. Peut-il inverser la vapeur ?
À tout de suite avec Thierry Mariani sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin Thierry Mariani, candidat soutenu par le Rassemblement National pour l'élection départementale en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Bonjour Thierry Mariani.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct en duplex de Marseille sur RTL. Alors, le candidat de gauche, Jean-Laurent Félicia, a décidé de se retirer et de voter pour votre adversaire, Renaud Muselier. Front républicain donc contre vous, Thierry Mariani. Très honnêtement, est-ce que vous y croyez encore à votre victoire ?
J'y crois plus que jamais parce qu'en réalité,
des centaines de milliers d'habitants de cette région ne se sont pas déplacés. En réalité, qu'est-ce qu'on a assisté ? On a assisté à une première étape où M. Muselier est allé chercher le soutien de M. Macron. Et maintenant, les choses sont claires. Il est allé chercher et obtenu le soutien du Parti Socialiste, du Parti Communiste, de ces écologistes qui, on le voit dans les mairies, refusent les sapins de Noël, les crèches ou le Tour de France. On a le candidat désormais qui représente à la fois Macron, les Républicains, Agir, le Modem, le PS et le PC. Donc je pense que quand on me dit le candidat du Front Républicain, est-ce que vous croyez que c'est très républicain de vouloir absolument faire des alliances contre nature pour empêcher les électeurs de s'exprimer ?
Est-ce que vous, vous êtes persuadé d'avoir fait la bonne campagne, Thierry Mariani, pardon, est-ce que vous pensez que vous avez été sur les bons thèmes ? Parce que c'est vrai que l'immigration, la sécurité ne sont pas des compétences de la région. Est-ce que vous n'êtes pas trompé de campagne ?
J'ai fait d'abord une campagne claire. Moi, je n'ai pas fait de compromission avec mes adversaires. C'est-à-dire que je dis aux électeurs, si vous me faites confiance, ma majorité sera solide. Donner un chèque à M. Muselier pour 7 ans à la région, c'est quoi ? C'est, il fera le programme de qui ? Et d'autre part, oui, je pense que j'ai fait une campagne sur les vrais problèmes de cette région, c'est-à-dire en réalité la montée de l'insécurité. Vous voyez très bien aussi les crises, la crise économique qui fait que cette région est désormais fragile en termes d'emploi. Et donc j'ai fait une campagne à la fois sur les compétences de la région, sur les vrais problèmes.
Oui, mais le fait est, Thierry Mariani, c'est que vos électeurs ne vous ont pas suivi, parce que c'est vrai que là on entend les vôtres dire ben bougez-vous, vous les culpabiliser un
Monsieur
petit
Sportouche,
peu de ne pas être venu. Et du coup, ils ne vous ont pas suivi. Le fait est, c'est qu'ils ne sont pas venus.
Monsieur Sportouche, Monsieur Muselier est le seul président de France sortant qui n'arrive pas en tête. Vous pensez pas que vous pouvez aussi lui poser la question ? On est à 36%. Avec 4,5 points d'avance, alors que les médias télé ont fait rentrer une petite musique toute la soirée en disant même qu'on était battu au premier tour, puis qu'on avait 1 point d'avance. Le matin, on se réveille avec 4,5 points d'avance. Voilà, moi je crois.
Non, mais on a entendu Marine Le Pen dire bougez-vous. C'est aussi ça. On a bien entendu le message, c'est que finalement vous n'êtes pas satisfait de la mobilisation de votre électorat. Mais du coup, on s'interroge sur pourquoi ils ne sont pas venus.
Mais au premier tour, je suis en tête de 4,5 points, ce qui prouve que tout est possible. Et quand vous me demandez si j'ai fait une bonne campagne, posez-vous la question quand même si M. Renaud Muselier, qui malgré toutes les compromissions avec Macron, est le seul président de France à finir second derrière son challenger, est-ce que lui a fait une bonne campagne ? Mais surtout, est-ce qu'il a un bon bilan ?
Alors Renaud Muselier, qui était hier sur notre antenne, hein, et qui a dit de vous que vous n'étiez pas, je le cite, un ami, un allié de la France, que vous étiez d'abord un ami de Bachar el-Assad, le président syrien.
C'est un peu caricatural. Je rappellerai quand même que M. Muselier est celui qui reçoit en grande pompe l'ambassadeur du Qatar, c'est-à-dire le sponsor international du terrorisme. M. Muselier est le président de la région qui envoie l'une de ses élus le représenter au congrès de l'UOIF. Voilà, vous savez, M. Bachar el-Assad, au contraire, a combattu les terroristes. Et peut-être que M. Renaud Muselier aurait préféré que Daesh soit à la tête de la Syrie. Moi, je préfère, malgré tous ses défauts, que ce soit quelqu'un qui ne menace pas la France. Donc je crois que Renaud Muselier joue l'embrouille permanente. Voilà.
Donc c'est toujours votre ami Bachar el-Assad, c'est ce que vous nous dites ce matin.
Je dis tout simplement que l'intérêt de la France, c'est qu'il ait gagné cette guerre. Et pardonnez-moi, d'abord, c'est pas...
Malgré l'utilisation d'armes chimiques, non mais c'est vrai que vous, à l'époque, vous aviez soutenu même en cette période-là, malgré l'utilisation, dit-on, d'armes chimiques.
D'abord, j'espère qu'on reviendra sur la région, parce que vous m'avez expliqué qu'il fallait faire une campagne sur la région. Moi, je peux aussi vous parler du Baloutchistan, si ça vous intéresse. Mais oui, je maintiens que pour sauver les chrétiens d'Orient, je me bats depuis des années à leur côté, que pour faire en sorte que la France n'ait pas une base terroriste à quelques milliers de kilomètres de son pays, eh bien, il vaut mieux avoir le gouvernement actuel plutôt que Daesh. Monsieur Muselier, soyons clairs, quoi. Je le répète, ça vous choque pas, vous, quand il reçoit le Qatar qui finance tous les mouvements terroristes, ça vous choque pas quand, en réalité, Monsieur Muselier est le candidat qui, au Parlement européen, vote pour la répartition de l'immigration dans les régions. Voilà, on a quand même quelqu'un qui, aujourd'hui, essaye de faire une opération de diversion, mais moi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, il a l'un des plus mauvais bilans des régions. Tous les magazines classent notre région en avant-dernier
oublier. C'est quand même plus facile de faire oublier ça en évoquant des pays lointains.
Thierry Marigny, votre objectif aussi, c'était d'aller chercher ces électeurs. Et de fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'électeurs républicains, partis auxquels vous appartenez il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont préféré rester avec les républicains. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes devenu un peu la copie et la droite classique, l'originale, et que finalement, bien, les électeurs sont restés au bercail ?
Monsieur Sportouche, il faut savoir, là, vous m'expliquez que je fréquente des gens qui, d'après Monsieur Muselier, seraient dangereux, et vous m'expliquez maintenant que je suis la copie des Républicains. Non, revenons à l'essentiel dans cette élection.
Non, vous n'allez pas aller chercher ces électeurs-là. Vous voulez qu'ils viennent vous rejoindre, et là, pour le coup, ils ne sont pas
écoutez,
venus, ces électeurs.
Moi, je ne vais pas chercher les communistes. Moi, je ne vais pas chercher les socialistes. Moi, je ne vais pas chercher les écolos dingos qui, à Grenoble ou ailleurs, on voit ce qu'ils font. Ça, c'est ce que fait M. Muselier. Voilà. Et je ne sais quel accord il a passé avec eux. C'est quoi, par exemple, qui va retirer la crèche dans le conseil régional pour faire plaisir aux écolos? La réalité, c'est quoi? C'est que la réalité, nous sommes en tête. La réalité, c'est quoi? C'est que Renaud Muselier sait qu'il peut perdre pour aller supplier le candidat socialiste au nom d'un franc républicain qui, en réalité, n'est qu'une alliance de sortants pour protéger leur poste. Voilà. La réalité, c'est que je suis le seul à proposer pour cette région une autre politique sans aucune compromission, sans aucun arrangement.
Est-ce qu'il faut continuer comme avant, ne rien changer? C'est vrai qu'on disait que Marine Le Pen a tenté cette stratégie de dédiabolisation, de normalisation. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas banalisé, vous n'êtes pas dans le système comme les autres partis? Est-ce que ça ne vous a pas nui dans cette campagne?
Monsieur Sportouche, vous me connaissez depuis des années. Vous croyez que je suis le diable? Vous croyez que les électeurs de cette région qui m'ont connu ministre, qui m'ont connu maire, qui m'ont connu député et m'ont chaque fois dans cette région réélu, j'ai jamais été battu dans cette région, dans les élections où je me présentais, me prennent pour le diable? Non. Moi, je les prends pour des gens
qui connaissent
la réalité.
Donc vous n'aviez pas besoin de dédiabolisation, justement?
Non, parce que je ne suis pas Satan.
Est-ce que c'était pourtant la stratégie de Marine Le Pen?
Oui, mais on a simplement besoin de montrer qu'on est crédible. C'est ce que j'ai montré dans cette campagne en ayant des projets clairs, en faisant des propositions que même toutes les organisations professionnelles ont jugé positive, et je veux aussi montrer qu'en réalité, M. Muselier, en dehors d'être le candidat de l'échec de cette région, c'est aussi le candidat d'une classe qui se protège, qui s'allie, qui se mélange pour sauver ses postes, et qui au niveau européen, puisqu'il soutient absolument cette politique européenne, c'est le candidat de l'immigration massive qui aboutit dans que cette région soit l'une des plus touchée par l'insécurité. Je vous rappelle, plus 19% d'augmentation des actes de délinquance pendant ces 5 dernières années. Voilà qui est M. Muselier et voilà l'alternance que je propose.
Mais en même temps, en vous écoutant, on se dit que est-ce que vous avez vraiment tiré les leçons de ce premier tour? Est-ce que finalement, la France à laquelle vous parlez, c'est peut-être pas celle que vous pensez qu'elle est? Est-ce qu'elle a vraiment si peur que ça, cette France? Est-ce qu'elle n'est pas déjà tournée vers autre chose? La jeunesse, par exemple, qui ne s'est pas rendue aux urnes, à laquelle vous, pas que vous, n'avez pas parlé?
La jeunesse, personne lui a parlé, et au plus haut niveau. Vous voyez, quand je vois, par exemple, Monsieur Emmanuel Macron, qui, au lieu d'expliquer aux Français qu'il faut aller voter, passe son temps à recevoir Justin Bieber ou je ne sais qui pour faire... c'est pas très sérieux.
Hier soir, à l'Élysée, ça vous a choqué, ça, qu'il soit avec Justin Bieber?
Non, il fait ce qu'il veut, mais ce qui est très clair, et les Français ne doivent pas être naïfs, c'est que Monsieur Macron, ce qui les arrange, c'est qu'il bouge pas. C'est qu'ils votent pas, c'est qu'en réalité ils soient absents. Et moi je dis aux électeurs, si vous ne vous déplacez pas, c'est votre choix. Je le regrette, mais je le respecte. Mais dites-vous que vous faites le meilleur cadeau à Monsieur Macron, et que dans cette région, si vous vous déplacez pas, dimanche prochain, et je vous prends le pari, quel est le premier qui criera victoire? Eh bien, pour cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est Monsieur Macron, parce que dès le premier tour, il a soutenu Monsieur Muselier, et tout le monde a bien compris que d'alliance en alliance, de compromission en compromission, Monsieur Macron et Monsieur Muselier est désormais non seulement le candidat de Monsieur Macron, mais de tous les partis qui veulent que rien ne change.
Vous parliez de crédibilité. Est-ce que justement, ce n'est pas encore là le plafond de verre du Rassemblement national? C'est-à-dire les Français, pour l'instant, en tous les cas, n'ont pas souhaité vous porter globalement en tête de ce scrutin pour gérer une des régions. Est-ce que ça veut dire que ça peut être compliqué qu'ils vous confient les rênes du pays? Est-ce que vous n'y voyez pas un signe? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'essoufflement,
Monsieur
de Marine
Sportouche,
Le Pen?
Comment vous pouvez-vous m'expliquer, alors que je fais presque 5 points de plus que mon adversaire, que j'ai un problème de crédibilité?
Je vous parle au niveau national.
Ah, au niveau national,
oui,
d'accord.
Oui, au niveau national.
Au niveau national.
Vos scores sont inférieurs à ceux de 2015.
Oui, parce qu'une partie de nos électeurs, malheureusement, sont désabusés et pensent que rien ne peut changer. Et moi, je dis, dans cette région, c'est peut-être la seule dans toute la France. Les électeurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur ont une responsabilité historique. Mmh. Ça peut changer, on peut gagner. Et la meilleure preuve, c'est que M. Muselier est obligé de faire toutes les alliances du fait qu'on est en tête. Donc, où ces électeurs décident de se déplacer dimanche, où ces centaines de milliers d'électeurs restent chez eux et vont à la plage.
Et pour vous, vous soutiendrez toujours Marine Le Pen pour 2022. Pour vous, elle reste votre candidate et la seule alternative.
Ah, ce qui est sûr, c'est que je ne soutiendrai pas Emmanuel Macron comme Renaud Muselier. Je soutiendrai Marine Le Pen, oui.
D'accord.
Oui, parce que je pense que pour ma région, il faut avoir une autre politique, il faut avoir un autre président. Mais ce qui m'intéresse
aujourd'hui... Marine Le Pen est toujours la bonne candidate pour vous.
Oui, mais ce qui m'intéresse d'abord aujourd'hui, c'est ma région. Et je pense qu'avec l'équipe que j'ai derrière moi, nous représentons la seule alternance possible pour une politique qui soit tournée, par exemple, vers les questions de sécurité. Permettez-moi quand même de rappeler que M. Muselier s'est préoccupé à l'avant-dernière séance, merci, après 6 ans, des questions de sécurité.
Merci Thierry Mariani, merci à Marie Mollet qui était à vos côtés pour assurer la technique. Bonne journée à vous.
Et comme chaque jour, l'intégralité de l'entretien avec Thierry Mariani est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci infiniment à tous les deux. Nous allons retrouver M. Cyprien Signy dans un instant, à qui la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas indifférente.
Tout à fait, une région qui m'est chère.
Voilà. Et vous surfez avec quoi donc ce matin ?
Les politiques et les jeunes, justement.
Ah bah tiens, allez, à tout de suite.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
Il est 7h56, les jeunes, la politique, vous surfez.
Macron, président des jeunes. Macron, président des jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes avec Macron ici ?
Eh ben pas trop. Et pas qu'avec Macron, d'ailleurs avec personne en fait, puisque dimanche, le couperet est tombé sur la classe politique.
87% des 18-24 ans n'ont pas voté, 83% des 25-34 ans.
Eh oui, pourtant c'est pas faute d'avoir essayé de draguer le jeune, hein, quitte à tomber dans une certaine forme de... originalité, disons, avec Marlène Schiappa sur leur réseau préféré, TikTok.
Salut, jeune entrepreneur. Je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok.
Waouh ! Ou même Jean-Luc Mélenchon.
C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé.
C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. 1-3 au G-Sport, je passe la...
C'est un contresens, Macron. Un contresens.
Eh ben, il n'y a pas que lui, visiblement. Non. Même si, quand il va sur TikTok, le président, je ne suis pas certain qu'il délivre le bon message. Parce que le jeune, ben, il faut savoir lui parler. Et en lui disant ça...
Vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. Aujourd'hui, profitez, fêtez le baccalauréat. Et après, bon courage.
Ouais, bon courage les jeunes, pas forcément très engageants quoi. Ouais. Des politiques qui tous se sont compromis sur toutes les plateformes possibles. Même le Premier ministre Jean Castex sur Twitch.
Notre invité de ce soir, le Premier ministre Jean Castex. Bonsoir Monsieur le Premier ministre.
Bonsoir Samuel.
Non mais Jean Castex sur Twitch quoi. Gabriel Attal s'improvisant animateur, toujours sur Twitch.
Ici réunis à l'Élysée en direct sur Twitch et sur YouTube. Si on pouvait enlever la musique, ce serait peut-être...
Mais non mais baissez-moi la musique là, c'est un métier. Hein. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont même essayé de se prendre pour des youtubeurs.
Un message aux abonnés ?
Mettez des pouces bleus !
Cette chaîne vous plaît ? Bah vous cliquez le petit pouce bleu.
En train de quémander des pouces bleus comme de vulgaires youtubeurs beauté, le président s'offrant 2 heures sur le média brut pour court-circuiter les canaux traditionnels, s'offrant aussi un jeu d'anecdotes avec McFly et Carlito.
Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille.
Impossible.
ça rigole avec Mbappé, tant de contorsions avec ce même objectif en tête.
Là, il s'agit à travers ces nouveaux supports d'essayer de s'adresser à des publics qui sont en général entre 18 et 24 ans.
Ah, les 18-24 ans, et donc on le rappelle. Hein.
87% des 18-24 ans n'ont pas voté.
Joli. Et là, je crois qu'on peut ressortir cette analyse présidentielle.
Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
Voilà, c'est pas un chèque, disons que ça n'a pas marché. Après, la vraie question, c'est peut-être celle-là.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune ?
Alors ça, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, finalement, c'est que le jeune, eh ben, il est peut-être pas si bête qu'on peut le croire.
C'est toujours troublant quand on entend l'expression « le jeune ». Merci, ouais. On vous retrouve ce soir chez Thomas Sauton.
À ce soir.
Notre météo, Louis Baudin.
Oui, toujours très instable, très changeante, très humide. Là, quand je vois les images satellites, effectivement, on a encore des averses dans la plupart des régions. Ça tourne et retourne. Ça circule du nord vers le sud dans l'ouest et du sud vers le nord dans l'est. Alors vous voyez, ça ne va pas continuer. Ça ne va pas cesser tout au long de la journée. Non. Avec de petites périodes d'accalmie, parfois encore des orages cet après-midi. Une exception, le littoral méditerranéen, où là, le soleil résistera. Le vent soufflera fort près des côtes de la Manche jusqu'à 60-70 km/h. Puis les températures, eh bien, elles baissent encore. Hein. 15 à 20 degrés seulement cet après-midi dans la moitié nord. 20 à 24 degrés dans la moitié sud, ou encore en pleine d'Alsace. Et 25 à 28 degrés, pas plus, sur le littoral méditerranéen.
Merci beaucoup, Louis. On se retrouve un peu plus tard pour observer ces orages.
Oui.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, le procès du massacre d'Orvault près de Nantes.
Toute une famille décimée, à l'origine la quête d'un trésor qui pourrait bien n'avoir jamais existé. Dans l'actualité également, ces recherches qui se poursuivent ce matin à Beauvais. Une personne est portée disparue après les orages de la soirée. Et puis le variant indien qui peine à se frayer un chemin au Royaume-Uni grâce au vaccin. On appellera Marie Billon à Londres.
RTL Matin.
Le procès de l'innommable aujourd'hui à Nantes, Hubert Caouissin, jugé pour avoir massacré, il n'y a pas d'autre mot, sa belle famille, c'était en février 2017.
C'est une disparition très inquiétante qui rappelle assez étrangement l'affaire du pont de Ligonnès.
Près de Nantes, précisément à Orvault, une famille de 4 personnes, les parents, leurs 2 enfants de 18 et 21 ans, ont disparu depuis maintenant une semaine.
Le procureur de Nantes, Pierre Sénès.
Et avec ce pied de biche, Monsieur Caouissin va frapper et donner la mort aux parents, puis ensuite à Sébastien Troidec et Charlotte Troidec. Cette scène criminelle est une scène d'une grande violence.
Et à l'origine de cette tragédie décidément hors norme, un trésor.
Un trésor qu'Hubert Caouissin était persuadé qu'on lui cachait. C'est cette quête folle qui est donc à l'origine de ce drame. Dans la nuit du 16 au 17 février 2017, l'ingénieur s'introduit dans la maison des Troidec. Il va les tuer les uns après les autres avant de dépecer et de brûler les corps de ses victimes. Sa compagne Lydie Troidec comparaîtra à ses côtés. Avec donc au cœur de ce procès, ce trésor, Patrice Gabart, que l'on cherche toujours 4 ans après.
Oui, ce trésor reste introuvable. Des lingots, des pièces d'or que le paternel Pierre Troidec aurait découvert lors de travaux dans un de ses logements dans le quartier La Recouvrance à Brest et qu'il aura ensuite dissimulé dans le garage familial. En 2009, avant de mourir, il livre son secret à sa famille. Aussitôt, les tensions se multiplient, la suspicion grandit. Lydie Troidec est persuadée que son frère Pascal a mis la main sur les lingots d'or sans rien demander à personne. Une injustice qui révolte aussi son compagnon Hubert Caouissin et cela vire à l'obsession. Le 16 février 2017, il se rend à Orvault pour écouter aux portes avec un stéthoscope prouver l'existence de ce trésor, mais cette jalousie maladive tourne au massacre. Pascal Troidec, Brigitte, sa femme et leurs 2 enfants, Sébastien et Charlotte sont tués à coups de pied de biche. Si un trésor a bien disparu à Brest en 1940, lors du transit express des réserves d'or de la Banque de France avec 50 kilos d'or au fond de l'eau, les policiers chargés de l'enquête n'ont pas trouvé le moindre magot dans un paradis fiscal. Même le train de vie de la famille Troidec ne collait pas avec un trésor caché, un trésor qui tient de plus en plus du fantasme.
Patrice Gabart. Du nouveau dans l'affaire Omar Radad, ce jardinier accusé d'avoir tué sa patronne à Mougins dans les Alpes-Maritimes en 1991. Sur la base de nouvelles analyses de traces ADN, son avocate Sylvie Noakovitch va déposer après-demain une nouvelle requête en révision. Ces empreintes relevées dans la cave où avait été retrouvée Guylaine Marshall appartiendraient à des hommes non identifiés. Omar Radad avait été gracié partiellement par Jacques Chirac, mais pas innocenté.
Toutes les explications de Sylvie Noakovitch avec nous à 8h20 sur l'antenne d'RTL. Il est très exactement 8h03, après les violents orages de la soirée, une personne est toujours portée disparue ce matin à Beauvais.
Il y a eu près de 600 interventions des pompiers hier soir dans l'Oise. L'hôpital de Beauvais a été partiellement inondé. Il a plu fortement entre 22h et 23h. Vous êtes sur place, Sinamir, bonjour.
Bonjour.
Un important dispositif est donc déployé pour tenter de retrouver le disparu.
Il s'agirait, oui, d'un jeune homme qu'un témoin affirme avoir vu chuter dans la rivière aux alentours de 22h, le moment où cet orage s'est transformé, l'espace de 60 minutes à peine, en torrent de boue, jusqu'à 70 cm dans certaines parties basses du quartier voisin lieu, par exemple. Là où on retrouve un peu partout autour de nous, sous les pare-chocs, des grosses plaques de bitume arrachées par l'eau, où l'on retrouve Eric aussi, qui tient un commerce depuis plusieurs années. C'est ce déluge de grêle, en tapant sur ses carreaux, qui a réveillé ce boulanger hier soir.
le macadam tapait sur les voitures. C'était vraiment incroyable, incroyable. Les voitures, elles se déplaçaient. Puis il y avait même des gens qui essayaient de se retirer leur voiture, mais ils sont partis. Hein. Le mari a rattrapé sa femme. C'était impossible. Hein. Des trompes d'eau qui dévalaient. Il y avait 10 cm dans la boutique. Hein. Donc là, il faut qu'on nettoie tout et on ouvrira demain.
Des recherches ont été lancées toute la nuit à l'aide de drones, de caméras thermiques pour retrouver le jeune homme disparu. Des plongeurs ont également été mobilisés sans succès pour le moment. Enfin, si l'eau a disparu des rues ce matin de Beauvais, l'hôpital, vous l'avez dit, a tout de même été impacté. L'eau s'est infiltrée par les toits et a inondé jusqu'à certains blocs opératoires, ce qui n'a heureusement pas provoqué de coupure d'électricité.
Merci Sinami, en direct de Beauvais pour RTL. Des dégâts aussi dans plusieurs communes de la Somme, mais aussi à Reims, dans la Marne. Reims inondé pour la troisième fois en deux semaines à cause des orages.
RTL 8h05, ultime journée de tractation avant le second tour des régionales et des départementales.
Les candidats ont jusqu'à ce soir 18h pour déposer leur liste. En Ile-de-France, la gauche fait cause commune derrière le vert Julien Bayou. En PACA, l'écologiste Jean-Laurent Félizia retire sa liste et votera Muselier pour barrer la route à Thierry Mariani, soutenu par le RN.
RTL, régionale 2021. Journal de campagne.
Les derniers échos, les dernières humeurs avec vous, Vincent de Rosier. Bonjour.
Bonjour.
Après la déprime chronique, la droite euphorique.
Tout a basculé dimanche soir à 20h. Tout le monde nous disait écartelé, asphyxié, fanfaronne un cadre. Nous sommes le premier parti de France. Les LR bombent le torse et en profitent pour régler quelques comptes en interne. Ça ferme le clapet des oiseaux de mauvais augure qui expliquaient qu'on allait dans le mur, lance un membre du parti. Un succès régional pour l'instant et des problèmes nationaux qui pourraient vite se poser. Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez ou Valérie Pécresse ont cartonné dans les urnes. Leurs cotes remontent en flèche et certains redoutent une guerre des égaux lorsqu'il faudra, à l'automne, désigner le candidat pour la présidentielle.
Le disparu du jour, mais où est passé Éric Dupond-Moretti ?
Il a fait résonner sa grosse voix pendant toute la campagne, mais après la gifle reçue dimanche, plus de son, plus d'image. Le garde des Sceaux est sorti par une porte dérobée. Il est allé boire une bière avec des militants dans le Vieux-Lille avant de rentrer à Paris. Son entourage a pourtant tout tenté pour qu'il s'exprime, mais il n'a rien voulu entendre. C'est la pire des sorties, tacle un marcheur local.
Et puis le couac du jour en Bretagne.
Pour les écolos qui rêvaient d'un accord avec le Parti Socialiste, ils y croyaient dur comme fer. Ils ont même pris leur voiture, c'est dire, pour aller négocier dans le fief du candidat PS Loïc Chesnais-Girard. Ils sont repartis fâchés, sans accord. Les écolos accusent l'héritier de Jean-Yves Le Drian de vouloir gouverner comme son mentor. C'est-à-dire sans partage, sans écologie. Et le scrutin, en plus, reste très indécis.
Vincent Derosier.
Dans un instant, sur RTL, le Royaume-Uni face à une nouvelle vague de Covid. On va vous expliquer tout ça.
RTL Matin.
Il est 8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. Plus de cas, mais pas plus de morts au Royaume-Uni.
Le variant indien dit Delta a relancé depuis plusieurs semaines la pandémie outre-Manche, mais de manière assez limitée. Grâce au vaccin, 80% de la population a reçu au moins une dose, Marie Billon.
Le Royaume-Uni est peut-être en train de vivre une troisième vague. Les experts ne s'accordent pas là-dessus, mais le pays n'est certainement pas submergé, contrairement aux vagues précédentes. Et là-dessus, les spécialistes s'entendent. En un mois, on est passé de moins de 2000 à environ 10 000 cas par jour. Mais pendant ce même mois, il n'y a jamais eu plus de 19 décès en 24 heures, et souvent même moins de 10. Ce schéma inédit, dans la crise sanitaire, le Royaume-Uni le doit au vaccin, explique Paul Hunter, professeur en maladies infectieuses.
Les vaccins ne sont pas très bons pour réduire les infections. Une seule dose réduit le risque d'un tiers environ. Deux doses, c'est déjà plus efficace, notamment pour réduire les infections et aussi la contagion. En revanche, une seule dose d'AstraZeneca réduit les chances de devoir aller à l'hôpital ou de mourir de 75%. Et après la deuxième dose, Pfizer comme AstraZeneca, c'est plus de 90%.
C'est ce qu'explique le taux de mortalité qui reste bas par rapport au taux de contagion. Et c'est aussi pour ça que les jeunes sont les plus touchés, car c'est la population la moins vaccinée.
Marie Billon à Londres, voilà qui fait réfléchir, alors qu'en France, le nombre de primo-vaccinés est en train de diminuer. On est revenu au niveau du mois d'avril. Et puis tout un symbole, l'Italie s'apprête à tomber le masque à son tour dès lundi prochain. Il ne sera plus obligatoire à l'extérieur. L'Italie fut le premier pays d'Europe touché par le virus. Et puis voilà ce qu'on entendra ce soir à Bourges. Jean-Louis Aubert, premier artiste à l'affiche du Printemps de Bourges qui débute aujourd'hui et s'achèvera dimanche. Il lance donc la saison des festivals, concerts assis et masqués, mais sans passe sanitaire. C'est la règle en vigueur jusqu'au 30 juin.
Avec mes rêves de conquête. 8h11, c'est une des conséquences de la crise sanitaire. Les dons d'organes ont fortement diminué en un an.
Il y a eu près de 300 greffes de moins en 2020 par rapport à 2019. La faute notamment aux déprogrammations. Et en cette journée nationale du don d'organes, les médecins veulent rappeler au grand public l'importance du don. Illustration, écoutez, avec ce petit garçon de 3 ans qui a pu être sauvé il y a 10 jours grâce à une double greffe du poumon. Odile Pouget.
Il y a 15 jours encore, la vie de ce petit garçon ne tenait qu'à un fil. Un arrêt cardiaque juste avant l'intervention et pour ses médecins, l'extrême difficulté de trouver un jeune donneur compatible avec sa taille. Mission accomplie la nuit du 12 juin. Le professeur Dominique Fabre, chirurgien cardio-thoracique à l'hôpital Marine-Lannelongue.
Bien évidemment, derrière chaque histoire bien heureuse, il y a une histoire triste parce que ça veut dire qu'il y a un enfant qui est décédé. Mais il y a aussi des parents derrière qui ont décidé, dans une situation difficile, de donner les organes pour sauver d'autres enfants. Et ça, c'est assez exceptionnel.
Exceptionnel aussi la transplantation qui va durer 9 heures. Opération précise, minutieuse, sur de toutes petites bronches, des vaisseaux et des artères minuscules. Aujourd'hui, l'enfant est hors de danger.
Il se balade dans les couloirs, il n'a plus d'oxygène et il a passé avec beaucoup de courage cette épreuve. C'est un petit garçon qu'on sentait en préopératoire un peu craintif, un peu meurtri de toutes ces mésaventures. Et là, on le voit avec le sourire.
Le petit garçon va rester encore une dizaine de jours sous haute surveillance avant de pouvoir rentrer chez lui.
Odile Pouget. On va passer au football et des Bleus qui sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.
L'Euro sur RTL.
Qualifiés sans rien faire grâce au succès de l'Autriche, de la Belgique et du Danemark, les Français affrontent demain le Portugal, mais ils devront l'emporter pour rester en tête de leur groupe. Et le débat du moment, il porte sur la finale prévue à Wembley, à Londres. Le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, n'est pas chaud à cause du variant indien. Les supporters, eux, rêvent d'une délocalisation à Budapest, là où il n'y a pas de jauge. Ce serait parfait pour une fête totale. Julien Fautra.
Oui, l'idée enchante les supporters français qui, ici samedi dans le stade, ont vécu des émotions extraordinaires. La voix est toujours éraillée.
Exceptionnel, c'était fabuleux, fabuleux.
Pour moi, c'est le vrai retour à la vraie vie.
La Puskás Arena pleine à craquer, s'en dégage une énergie, des frissons. Une idée du foot que les supporters avaient oublié un an et demi après le début de la pandémie.
Voilà, maintenant qu'on a vécu ça, pour rien au monde, on veut avoir une finale à Londres avec 50%. Pour rien au monde. Que si l'UEFA nous écoute, faites la finale à Budapest, s'il vous plaît, faites la finale à Budapest. Peu importe si on est en finale, faites la Budapest, on veut des stades pleins. Tout le monde se prend dans les bras, peu importe le résultat. Et c'est vraiment bon enfant et c'est ça ce qu'on veut.
Et on voit bien que les conditions sanitaires ne sont pas réunies quand même.
Alors honnêtement, sanitairement, il n'y a absolument rien qui est respecté. On va être honnête, il n'y a rien qui est respecté. En fait, ça fait tellement du bien que c'est vrai qu'on oublie un peu ça.
Et dans les conversations, le résultat du match en deviendrait presque secondaire.
Voilà, et vive la Hongrie. Reportage de Julien Fautre.
Vous revenez à 9h ?
Oui,
c'était le journal de Jérôme Florin.
Yves Calvi, RTL Matin.
8h14, l'heure de retrouver notre brigade RTL avec vous. Jacques Serret, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Une fois de plus, les élections de dimanche ont fait mentir les sondages. Alors on va s'arrêter avec vous Jacques. Comment fonctionnent les instituts pour tenter de faire des prévisions? Quelles sont leurs méthodes? Ils interrogent les Français par téléphone?
Non, pas du tout. Ça, c'était avant 2012. Depuis une dizaine d'années, la très grande majorité des enquêtes d'opinion se passent sur Internet.
Oui.
Les instituts de sondage font appel à ce qu'ils appellent des panels en ligne, sorte de grands viviers d'internautes qui répondent aux questions posées en cochant des cases. Entre 15 et 20 cases par questionnaire pour les sondages portant sur ces élections régionales. Pour cela, les sondés reçoivent la plupart du temps une gratification de l'ordre de 50 à 75 centimes par questionnaire.
Mais comment peut-on être sûr que ces sondés soient représentatifs de la population ?
Eh bien, les sondeurs estiment que la méthodologie des sondages en ligne est tout autant recevable que celle des enquêtes par téléphone, dans la mesure où 85% des Français sont aujourd'hui connectés à Internet. C'est pourquoi, par exemple, lors de ces derniers sondages, notre partenaire BVA a interrogé sur la toile entre 800 et 1000 personnes âgées de 18 ans et plus pour chaque région. À chaque fois, les sondés sont classés selon plusieurs critères, sexe, âge, profession, département ou encore niveau de diplôme. Ensuite, en se basant sur les données statistiques de l'INSEE, il s'agit de tenter de reconstituer la population d'une région à travers cet échantillon de 1000 personnes. Mais la technique a ses limites et il y a bien sûr une marge d'erreur. Elle était en moyenne de plus ou moins 4% sur les prévisions de résultats des candidats établis avant le premier tour.
Alors, il y a quand même eu des écarts beaucoup plus importants entre ce qui était annoncé et les résultats du premier tour. Comment l'expliquer ?
par une faille qui peut clairement fausser les sondages. En fait, les intentions de vote recueillies sont celles des personnes qui se déclarent certaines d'aller voter.
Oui.
Sauf que voilà, selon les sondeurs, un nombre non négligeable de personnes qui se disaient sûres d'aller glisser un bulletin dans l'urne ne se sont pas déplacées. Ça, plus la très forte abstention également chez les indécis, c'est compliqué, lâche un sondeur qui cependant se défend et n'oublie pas de rappeler les petites lignes écrites en dessous de chaque enquête. Les résultats d'intention de vote sont une mesure à un instant T et non un élément de prévision du résultat électoral.
Oui, c'est un petit peu comme quand on doit lire la notice de nos médicaments. Merci beaucoup Jacques Sorel. Dans un instant, notre bureau de vérification de l'info avec Jean-Mathieu Pernin qui va nous parler animaux et Covid. Et puis Michel Simès qui va tenter, lui, de tirer les premiers enseignements de la crise du coronavirus. A tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous. Il est 8h17.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
8h18, on traque les fausses informations avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, non, les animaux ne sont pas morts en testant le vaccin contre le Covid.
Et oui, l'adhésion au vaccin est de plus en plus grande, on peut pas dire le contraire, mais les fariboles et autres affabulations concernant le vaccin continuent de la part des militants radicaux et inondent encore et toujours leurs médias favoris, à savoir les réseaux sociaux. Ainsi, après les personnes âgées, après les femmes enceintes, après les enfants, voici la rumeur qui concerne les animaux. Bon, après tout, Chacha et Toutou sont des êtres vivants et aussi sont victimes d'intox. Hein. Ainsi, depuis début mai, circule une vidéo particulièrement virale. Il s'agit de l'extrait d'un débat tenu devant le comité sénatorial du Texas aux États-Unis. La pédiatre Angelina Farella, qui est proche d'un collectif anti-vaccin et qui est très connue pour diffuser des fake news, y affirme que les animaux cobayes étaient morts durant les tests des vaccins, ce qui aurait poussé les fabricants à expérimenter directement sur les humains. Incroyable. Alors, ces affirmations ne se sont pas du tout avérées, hein, puisque selon la Food and Drug Administration, qui est l'agence de santé américaine, les laboratoires Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ont bien testé leur vaccin sur des animaux, ont eu des souris, des hamsters, des primates. Ils ont tous constaté des effets positifs contre le SARS-CoV-2 et aucun mort d'animal n'est documenté. À savoir que les propos de la pédiatre lors de cette réunion ont été soutenus par un sénateur présent. L'incendie de l'intox était donc lancé.
Bien. Depuis le début de la pandémie, on s'interroge concernant l'impact du Covid sur les animaux.
Eh bah oui, tout a commencé avec la star. Souvenez-vous de ce début de pandémie, à savoir le pangolin. Forcément, ça faisait longtemps le pangolin, Yves. Accusé d'avoir été l'organisme transmetteur, l'animal était devenu l'ennemi public numéro un. Alors aujourd'hui, un peu descendu, puisqu'on parle plutôt d'une chauve-souris. Ensuite, on s'est inquiété pour nos animaux de compagnie. Quelques cas de Covid ont été signalés, mais assez rares. Encore récemment, d'ailleurs, en mars dernier, un chien et un chat anglais était déclaré positif au variant Delta. En Afrique du Sud et au Brésil, ce sont des souris qui ont été infectées par les variants locaux. L'animal le plus touché, on le sait, a été le wison. Des élevages entiers ont été ravagés par le virus. À la fin 2020, le Danemark a abattu 15 millions de wisons élevés dans des fermes pour combattre les risques de mutation de coronavirus chez l'animal à fourrure.
Alors ma question est tout à fait sérieuse. Oui. Existe-t-il un vaccin anti-Covid pour les animaux ?
Eh bien oui. Il est russe, il n'est pas chez nous, et il s'appelle Carnivac Kov. Voilà, c'est un nom digne d'un méchant, d'un film d'horreur, Carnivac Kov. Mais il a été homologué fin mars pour les animaux carnivores. En janvier, des scientifiques britanniques avaient affirmé qu'une campagne de vaccination pour les animaux domestiques serait nécessaire. Pas une priorité, répondent la plupart des vétérinaires. Un laboratoire américain prépare aussi un vaccin pour les animaux. Alors, les chiens et les chats auront-ils un QR code vaccinal pour acheter leurs croquettes ? Voilà une polémique intense à venir.
Écoutez, je vais en parler avec mes chats et je vous tiens au courant.
Pas.
Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernat.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous souhaitez tirer quelques leçons de ce qui s'est passé depuis maintenant plus d'un an dans notre pays, comme le reste de la planète d'ailleurs, confronté au Covid-19.
Oui, nous en sommes à plus de 3 700 000 morts dans le monde. Et si les États-Unis sont le pays le plus endeuillé, la France, avec quelques 110 000 décès, figure parmi les pays les plus durement touchés, en tout cas si on évalue les choses au prorata de sa population. Il reste à espérer que le cycle du virus s'achevant et la vaccination aidant, la situation redevienne comme avant, parce que pour le coup, on peut le dire, c'était mieux avant le virus. Mais il ne faut pas se leurrer. Même si le coronavirus responsable du Covid nous lâche un jour les baskets, il y aura d'autres pandémies. Bien des spécialistes s'accordent sur ce point.
Qu'est-ce qui leur permet de l'affirmer ?
L'observation de ce qui se passe depuis quelques décennies. Depuis le milieu du XXe siècle, les chercheurs ont mesuré que chaque décennie avait vu émerger plus de nouveaux virus que la décennie précédente.
Ah oui.
Autre indice, en 11 ans, nous avons connu 4 grosses épidémies. Le Covid-19 vient en effet après le H1N1, le Chikungunya et le Zika. 4 épidémies en 11 ans, nous n'avions jamais vu ça, et je ne parle pas des problèmes plus localisés comme Ebola qui revient régulièrement à la une de l'actualité.
Est-ce qu'on sait d'où vient cette augmentation de virus émergents ?
L'explication avancée, c'est l'extinction des espèces. Vous le savez, les virus vivent sur les espèces animales et dès lors que le nombre de ces espèces a tendance à diminuer, les virus se mettent en quête d'autres espèces. Et il en est une d'espèces qui compte quelques 7,5 milliards d'individus parmi lesquels vous, Yves ou moi, cette espèce, c'est bien sûr l'espèce humaine. C'est pour ça que les virus nous trouvent de plus en plus facilement et j'ajouterai nous trouverons de plus en plus facilement.
Pourquoi nous trouverons-ils plus facilement ?
Pour deux raisons. D'abord, notre proximité avec les animaux, elle a toujours existé, mais elle ne cesse d'augmenter, en tout cas dans certaines régions du monde. Ensuite, la population, elle aussi augmente. En 2030, on sera 1 milliard de plus qu'aujourd'hui. Mm-hmm. En 2040, on aura dépassé la barre des 9 milliards de terriens qui ont en plus la bougeotte. Ça fait autant de cibles supplémentaires pour les virus. Et pourtant, Yves, il reste des raisons de se réjouir et de croire en l'homme et en son avenir.
Ah bah vous allez nous dire que c'est la science qui nous sauvera.
Eh bien oui. Qui aurait pu imaginer, il n'y a ne serait-ce que quelques années, que face à une pandémie comme celle que nous vivons, la recherche arriverait à nous offrir des vaccins efficaces en moins d'un an. Alors bien sûr, le fait que les scientifiques travaillent depuis des années sur l'ARN messager a permis d'accélérer les choses, mais quand même. En quelques semaines, on connaissait le génome du virus. Un an plus tard, on vaccine. Ce qu'a réalisé la communauté scientifique, il faut en prendre la mesure, c'est une prouesse. Elle mérite notre respect et qu'un immense hommage lui soit rendu.
Merci beaucoup Michel, à demain.
À demain.
Un nouveau rebondissement dans l'affaire Omar Haddad, ce jardinier accusé, je vous le rappelle, d'avoir tué sa patronne à Mougins dans les Alpes-Maritimes. C'était en 1991. Sur la base de nouvelles analyses de traces ADN, son avocate, Sylvie Novakovic, va déposer une nouvelle requête en révision. Nous faisons un point très complet dans un instant avec Madame Novakovic.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 8h26, bonjour Sylvie Novakovic.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, vous êtes l'avocate d'Omar Haddad et vous venez nous annoncer ce matin que vous allez demander un procès en révision. Sur quelle base allez-vous faire cette requête ?
Eh bien sur la base d'éléments scientifiques, parce que nous avons obtenu, j'ai obtenu effectivement auprès du parquet, grâce à la loi du 20 juin 2014, de nouveaux éléments scientifiques, à savoir, à qui appartenaient ces deux ADN qu'on avait retrouvés en 2001.
Oui.
Il s'avère que depuis... Eh bien, il y a 4 ADN et non plus 2 ADN qui ont été retrouvés mélangés au sang de la victime. Mais j'ajoute, l'élément le plus important n'est pas celui-ci. C'est le fait que l'un des ADN, déjà, a matché avec le fichier national des empreintes génétiques.
Et ça n'est pas celui d'Omar Haddad ?
Pas du tout. Non, évidemment, il a été comparé.
Oui.
Mais surtout, un nom est sorti. Et ce nom peut être retrouvé grâce à une recherche en parentèle. Parce qu'en fait, une expertise a été faite le concernant, a priori, et ce ne serait pas lui, mais ça peut être un parent à lui. C'est la raison pour laquelle il faut pousser plus loin, mais je vous rassure, l'affaire est actuellement en cours devant le parquet de Nice.
Sylvie Novakovic, ces analyses ADN, elles sont récentes ou elles traînaient dans un dossier ? Enfin, comment se fait-il qu'on en parle aujourd'hui ?
On en parle aujourd'hui parce qu'il a fallu des expertises.
On est 30 ans après, vous rendez compte, c'est jeudi prochain.
Enfin, et oui, et surtout c'est grâce à la nouvelle loi, c'est une loi créée sous l'égide de Georges Fenech et Alain Touré. Cette loi de 2014 m'a permis de faire des demandes d'actes auprès du parquet et ces demandes d'actes m'ont permis de faire révéler qu'il y a des ADN retrouvés mélangés au sang de la victime. Je vous ai parlé de l'ADN qui a matché avec le FNAG, mais pas d'un autre essentiel encore. C'est un ADN qui se trouve sur la porte de la chaufferie, qu'on retrouve à 35 reprises. Cette trace d'un seul ADN mélangé au sang de la victime, on la trouve à 35 reprises sur les traces en lettres de sang Omar Matt. Pourquoi c'est important ? C'est tout simplement parce que l'arrêt du 20 novembre 2002 qui a été rendu, c'est la cour de révision qui a débouté M. Omar Haddad à l'époque de sa demande en révision, indiquait que même si les experts aujourd'hui indiquaient qu'on ne pouvait absolument plus affirmer qu'il s'agissait de l'écriture de Mme Marshall, en revanche, la cour à l'époque a indiqué que très vraisemblablement, il s'agissait de son de Mme Marshall, compte tenu du fait que les lettres partaient en descendant et en mourant. Or, ces nouveaux ADN sont mélangés à cette écriture précise.
Maître Novakovic, ce que vous nous dites est stupéfiant. On n'avait pas ces analyses et on ne pouvait pas en tirer d'ores et déjà des conclusions ?
Absolument non.
Pourquoi ?
Nous n'avions pas ces analyses à l'époque parce qu'on était à la création des ADN. Et lors de cette création, eh bien, il n'y avait que des comparaisons en plus à des crimes absolument qui n'avaient rien à voir avec les crimes de sang, mais les crimes sexuels uniquement. Donc on ne pouvait pas le faire à l'époque et on était à la création des ADN.
J'ai bien compris que cela innocente votre client et en même temps, cela désigne au minimum un nouveau coupable.
Ah mais de toute façon, à mon avis, il y a un ou plusieurs coupables. Parce qu'on a d'un côté la porte de la chaufferie, la porte de la cave, et on a retrouvé 4 ADN. Donc bien sûr, il faut absolument, même ceux qui n'ont pas matché avec ce fichier, eh bien on doit comparer ces ADN avec tout l'entourage, quel qu'il soit, y compris avec des enquêteurs, parce que vous aurez toujours, ça je m'y attends, il y aura toujours des détracteurs qui vont indiquer, bah, écoutez, c'est un ADN de pollution. Mais en ce qui concerne la porte de la chaufferie, on ne peut plus dire qu'il s'agit d'un ADN de pollution quand ça apparaît à 35 reprises sur les écritures proprement dit.
Et c'est très clair, comment a réagi Omar Haddad ?
Il est très heureux, parce qu'il a espoir. Je vous assure, je l'ai tous les jours au téléphone, et vraiment il a repris espoir. Et de toute façon, il se sait innocent, et il veut absolument être blanchi, il veut aller jusqu'au bout de la démarche, et il souhaite bien sûr que le véritable criminel, les véritables criminels, soient retrouvés.
Alors je rappelle qu'il est seulement gracié pour l'instant. Dans quel état d'esprit est-il et quelle est sa vie aujourd'hui, en dehors de l'espoir qui est soulevé, bien entendu, par votre nouvelle démarche ?
En dehors de cet espoir, bien entendu, il est reclus sur lui-même, d'ailleurs tous les jours, hein, je veux dire depuis toujours, depuis 30 ans. Il attend sa révision. Sa vie, c'est ça, c'est j'attends la révision. Il est dépressif, c'est vrai. Aujourd'hui, il a repris espoir. Il compte beaucoup sur moi, donc j'ai sur moi un poids absolument considérable. Oui. Mais croyez-moi, c'est le procès de ma vie, en ce sens que je ne passerai pas une journée sans vouloir cette révision que j'aurai.
Elle peut être refusée, pardonnez-moi, excusez-moi, mais j'ai bien compris que ce n'était pas votre... Mais est-ce qu'on peut motiver un refus ou une non prise en charge de...
Pardonnez-moi, je n'envisage absolument pas cette hypothèse en raison de la loi du 20 juin 2014 qui est venue préciser la notion de doute. Aujourd'hui, un simple doute doit obliger effectivement la Cour de révision à réviser.
Alors un simple doute, et ce sera ma dernière question, est-ce que l'on va connaître, grâce à ces analyses, si elles sont faites correctement, la réponse à la question que tout le monde se pose, c'est l'issue de cette affaire, qui a tué la victime et pourra-t-on définitivement innocenter Omar Haddad ? Ce sont trois questions en une.
Alors,
vous répondez oui aux trois ?
Je réponds deux, oui, absolument, ce sera révisé, il sera innocenté, bien sûr, parce qu'on a suffisamment d'éléments pour le dire. Oui. Maintenant, retrouver le véritable coupable, ça va dépendre des progrès scientifiques, ça va dépendre de plein de choses. J'espère bien, effectivement, que grâce aux progrès scientifiques, nous allons savoir l'identité des vrais coupables. J'en suis quasiment persuadée. Maintenant, on est là au niveau de la science.
Merci infiniment, Sylvie Lakovitch. Vous nous annoncez ce matin sur RTL que vous allez demander donc un procès en révision concernant Omar Haddad. Merci beaucoup.
Mais je vous en prie, avec plaisir.
Faire sur notre antenne. On vous retrouve bien entendu avec notre camarade Julien Courbet, que vous aidez très régulièrement dans son émission quotidienne.
Absolument.
Et puis, on continuera d'évoquer cette affaire dans le 12h45
Merci M6 beaucoup.
Aujourd'hui, à midi et avec vous.
Et je vous tiens informé, bien entendu.
Merci infiniment. Bonne journée.
Merci beaucoup.
La météo avec Louis Baudin dans un instant. Météo à 7 jours.
Bien sûr.
Ne laissez pas vos empreintes, vous. Hein.
Non.
Dans RTL Matin, dès 9h, laissez-vous tenter.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsock. Lynn Renault et Danny Boone sont amis depuis 20 ans. Deux ch'tis que le cinéma a déjà réunis plusieurs fois et qui tournent en ce moment le film Une belle course. C'était l'occasion rêvée de les rencontrer et de les faire parler de ces liens qui les rassemblent, de ce projet, mais aussi du temps qui passe. Lynn Renault, Danny Boone, conversation et confidences croisées, c'est ce matin à 9h. Dans Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
La météo à 7 jours, il est 8h36, on vous écoute, Louis Baudin.
Oui, bien d'être traqué, hein, on a du mal à retrouver des conditions. Je parle de la météo.
Ah
hein.
Bon. J'ai eu un doute pendant un instant.
Bien sûr, non. Je m'en tiens à la météo, voilà. Moi, effectivement, avec déjà beaucoup de choses à dire et à faire, avec ce temps très instable accompagné d'averses et encore d'orages aujourd'hui dans la plupart des régions, sauf tout près de la Méditerranée. Hein. C'est toujours pour les mêmes que le soleil résiste. Les températures bas fraîches, dites donc, on n'atteindra pas les 20 degrés dans la moitié nord cet après-midi, sauf en plaine d'Alsace et entre 20 et 25 dans le sud. Il n'y a que près de la Méditerranée où nous aurons des températures de saison. Demain, c'est quasiment la même chose. Alors, il y a quand même un endroit où ça va s'améliorer, c'est en bord de mer. Il faudra aller en bord de mer demain pour avoir un temps relativement sec et plutôt ensoleillé près de l'Atlantique, sur le littoral de la Manche.
Il n'y a plus de saison, mais il y a encore du bord de mer.
Mais il y a encore du bord de mer, exactement. Alors, je ne dis pas qu'il fera très chaud, mais au moins on aura un peu plus d'éclaircies. Ailleurs, il y a toujours la même tambouille avec des passages nuageux, des éclaircies, quelques averses plus fréquentes en cours d'après-midi, parfois accompagnées d'orages. Les températures ne bougeront pas, donc fraîches pour la période. Pour la journée de vendredi, on pourrait Allez, dire qu'on va être dans une journée intermédiaire. Oui. Vous savez que j'hésite un peu pour la fin de semaine. Hein.
Vendredi, c'est le jour du poisson aussi. Donc.
Ouais, je vais mouiller un petit peu, si je puis dire, en disant que ça devrait s'améliorer. Hein. Hier, j'hésitais, je vous avais dit joker. Donc amélioration qui devrait se confirmer pour le week-end, qui s'annonce donc un peu plus doux, un peu plus ensoleillé, avec peut-être quelques nuages quand même dans le nord-ouest, mais globalement du mieux. Et puis en début de semaine prochaine, ben là je réserve encore mon pronostic parce qu'il y a de nouveau une dégradation possible et puis d'autres modèles sont quand même un petit peu plus optimistes. Mais c'est compliqué en ce moment, j'ai un peu de mal avec la prévision et cette situation météo particulièrement instable.
Écoutez, ce questionnement vous honore.
Je ne sais pas, mais ça montre les limites quand même de cette science.
Il est 8h37.
RTL, vous êtes comme ça.
6 de nos soldats ont été blessés hier au Mali dans une attaque à la voiture piégée. Et nous vous proposons ce matin, dans Vous êtes comme ça, de découvrir comment les militaires grièvement blessés se réinsèrent dans la société, notamment grâce au sport. Nous partons dans le Cher, précisément à Aubigny-sur-Nère, là où l'armée française organise des stages sportifs pour les blessés de guerre. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez pu passer une journée avec des soldats accidentés en service sur des théâtres de guerre comme le Mali et qui aujourd'hui tentent de se reconstruire.
Oui, reconstruction par le sport dans un décor propice, adapté aux personnes à mobilité réduite. Le calme, des grandes pelouses, un lac et une piscine où ce matin, Souleymane, pourtant devenu paraplégique, va s'initier à la plongée grâce à Philippe, l'instructeur.
Bah, franchement, c'était une découverte. On a une sensation d'apesanteur qui fait qu'on ressent plus son poids. Et ensuite, on est vachement léger, donc on peut se déplacer plus facilement.
Et dedans, aucune panique?
Aucune panique, non, justement, il ne faut pas stresser.
Qu'on soit gros, petit, même tétraplégique, on est dans un milieu qui nous porte. Je lui ai fait voir qu'il pouvait faire des galipettes dans l'eau.
C'est vrai qu'on peut faire des pirouettes sous l'eau, même quand on est paraplégique. Et ça montre qu'en fait, encore une fois, certes, on ne peut plus nager comme avant, mais on peut quand même nager d'une façon différente. Moi, en tout cas, je sais que maintenant, la plongée, c'est faisable.
Militaire en opération extérieure au Mali, Souleymane, 21 ans, brigadier, est aujourd'hui dans un fauteuil roulant après que son véhicule a roulé sur un engin explosif improvisé, une mine, alors qu'il apportait de l'aide humanitaire.
J'ai toujours été sportif et j'ai toujours été compétiteur. Et que malgré mon handicap, je peux toujours continuer à l'être. Et qu'une fois que tout est adapté, tout est possible. Et de montrer que voilà, dans la vie, on a tous des épreuves. Hier, par exemple, je fais du vélo avec mes bras. Et du vélo à bras, je sais pas si vous connaissez, c'est du handibike. Et on pédale avec ses bras. Et même en fauteuil, c'est possible.
Pour peu que chaque activité sportive soit adaptée à tous les handicaps, le défi de l'adjudant Stéphane, référent sport, il a inventé un casque pour que les personnes tétraplégiques puisse jouer au ballon.
Pour qu'il puisse pousser une balle avec sa tête. C'est-à-dire que j'ai pris un casque de VTT. Ensuite, j'ai pris les bâtons qu'il y a dans les McDonald's où il y a le ballon au-dessus. Et je l'ai scotché sur le casque. Rien qu'en bougeant la tête, il pouvait pousser la balle qui roule sur une rampe et qui arrive sur une zone ciblée.
Le sport qui aide aussi à guérir les blessés psychiques, Julien, 70% des blessures prises en charge par l'armée sont d'ordre psychologique.
Oui, ce qu'on appelle blessure invisible. Invisible parce que lorsque l'on croise Thomas dans la rue, on voit un jeune homme carré, souriant, apparemment bien portant.
Avant de venir des stages comme ça, on passe beaucoup de temps chez soi. Pour moi, personnellement, c'était plus d'un an à se demander qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai ça. On n'a pas ces réponses à ces questions. Tandis que quand on vient à un stage comme celui-là, on a tout l'encadrement qui est là pour répondre à ces questions, à nous aider à traverser ça et puis nous dire vous n'êtes pas tout seul les mecs, il ne faut pas avoir peur de le dire, chose que moi j'ai eu peur au début. Moi j'ai mis beaucoup de temps à aller m'adresser à ma chaîne de commandement, comme quoi je commençais à être pas bien, que ça allait pas.
On n'ose pas.
Voilà, c'est ça. Moi je sais que personnellement, pour mon cas, j'ai pas osé la première année, j'ai pas osé le dire. Ça m'a beaucoup rongé l'intérieur. Et une fois que j'ai fait le pas d'aller voir ma hiérarchie, surtout mes médecins dans mon régiment, ça fait du bien. Il ne faut pas attendre en fait.
À 25 ans, il était un ancien combattant, l'une des premières générations de militaires dont la blessure psychologique, cette maladie du repli sur soi, est décelée et prise en charge. Le médecin en chef Stéphanie.
Les blessés qui arrivent suite à une blessure physique, mal de dos, des lombalgies, on s'aperçoit que parmi ces patients-là qui ont des blessures physiques, la blessure psychique, elle est là dans à peu près 80% des cas.
Avec le sport comme levier pour que ces militaires retrouvent leur intégrité physique et psychique. Le colonel Antoine Brûlé est le chef de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre.
Le sport, c'est l'ADN du soldat français. Et lorsqu'on est blessé, on a l'impression d'être comme un oiseau abattu en plein vol. Mais évidemment, l'enjeu, c'est la réinsertion professionnelle et le projet de reconversion. On a des militaires qui se sont reconvertis dans une banque, dans des brigades de cuisine de grands chefs à Paris. Tout est possible.
Des blessés qui viennent des trois derniers théâtres d'opération, Centrafrique, Mali et même Afghanistan, la protection sociale française permet de suivre les militaires dans la durée.
Merci beaucoup Julien Fautra pour ce reportage plein d'énergie en compagnie de nos soldats. On salue leur courage et on leur souhaite un très prompt rétablissement.
RTL Matin.
La face cachée de la Une.
Il est 8h42 ce matin, Isabelle Choquet. Nous allons regarder d'un peu plus près nos séries préférées. Elles nous captivent, mais elles nous manipulent un peu aussi.
Oui, vous connaissez le placement de produits. Mm-hmm. Une entreprise paye les producteurs de films ou de séries pour que sa marque apparaisse au détour d'une scène, l'air de rien. Eh bien, désormais, certains payent aussi pour placer des idées, pour défendre une cause. Et ça pose bien des questions. C'est le magazine Marianne qui s'y intéresse cette semaine. Un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. Prenez la série Sam, jeune prof de français, interprétée à l'origine par Mathilde Seigné, 6 millions de téléspectateurs par semaine. Plusieurs séquences montraient l'héroïne en train de boire l'eau du robinet. Alors, c'est pas très bizarre, hein, c'est un personnage qui rejette la société de consommation, ça allait bien. Il s'agit pourtant d'un message tarifé, message sponsorisé par le Centre d'information sur l'eau. On ne vous prend pas en traître, hein, si vous êtes attentif, vous remarquerez dans un coin de l'écran un petit pictogramme, une lettre P noire dans un cercle blanc qui s'affiche au début du programme, après chaque pub et pendant le générique de fin. P comme placement de produit ou de concept. Alors attention, le scénariste reste seul maître à bord, mais une fois qu'il a écrit son histoire, il passe le relais à des agences spécialisées. Ces agences, elles vont chercher s'il n'y a pas des partenariats possibles. Au passage, selon Marianne, elles prélèvent une commission de 20 à 30%. Le must, ce sont bien sûr les feuilletons quotidiens à succès. Oui. Par exemple, pour un si grand soleil, l'agence Place to Be Media a signé des partenariats avec la région Occitanie et la métropole de Montpellier pour vanter comme ça la beauté et la richesse du coin. La série a eu aussi un accord avec l'Union nationale des aveugles. Objectif, utiliser un personnage malvoyant pour sensibiliser les spectateurs à la cécité. C'est une bonne cause. Car les auteurs et les agences sont tous sur la même longueur d'onde. Pas question de diffuser des mensonges ou de la propagande. D'accord, écrit Marianne, mais où sont les bonnes et les mauvaises valeurs? Prenez l'écologie, par exemple. Le scénariste Olivier Sulzinger se défend de faire des histoires écologiques. D'ailleurs, l'équipe de Plus belle la vie a refusé de prendre position sur le nucléaire. En revanche, il trouve intéressant de faire évoluer les mentalités sur les gestes du quotidien. Et un partenariat a été signé avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Plus récemment, le feuilleton a raconté les aventures de Lola, une adolescente qui décide de s'enchaîner à un arbre centenaire menacé par un projet de parking. Et bien pour ces épisodes, l'équipe a travaillé avec l'association On est prêt. Et le site internet de ce collectif ne s'en cache pas. Il est question, grâce au récit, je cite, d'obtenir des victoires politiques en mobilisant massivement, notamment, la jeunesse. Autre domaine délicat, la santé. Le CSA interdit de promouvoir des médicaments, mais Plus belle la vie a déjà incité à se faire vacciner contre la grippe dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de la Santé. Et d'ailleurs, en parlant de ministère, jusqu'où l'État peut-il agir dans le placement d'idées? Dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes, Sulzinger admet qu'il a été contacté pour traiter de l'importance du grand débat national. Il a décliné, pas par principe, hein, dit-il, parce que selon lui, un si grand soleil, c'est pas très politique comme série. Bref, tout ça se fait un peu au doigt mouillé. Une seule contrainte, mais elle est non négociable. Les annonceurs ne doivent pas influencer l'écriture. Le CSA est formel. Pas question d'écrire des histoires sur mesure pour défendre telle ou telle idée. Il faut qu'il y ait une volonté de la production au départ. De toute façon, dit Sulzinger, on ne fait pas de la bonne fiction en défendant des principes. Écrire des histoires édifiantes, ça se révèle toujours contre-productif. Des bons sentiments contre de l'argent, grand dossier à lire cette semaine dans Marianne.
Tout cela est fort intéressant. Merci beaucoup Isabelle Choquet. À demain matin.
À demain.
On va retrouver l'équipe de Laurent Gérard dans un instant sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL. Here we go together. RTL. Nice cool breeze with big palm trees. I'll tell you, check him off in a day. Toujours avec RTL Matin.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
8h48. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. C'était hier la fête de la musique, vous le savez. Oh là là. Comment les Parisiens ont-ils abordé cette journée? Nous sommes au téléphone avec Gérard Depardieu pour en parler. Bonjour Gérard.
Salut la Jade.
Alors, vous avez fêté la musique hier?
Ah oui, je l'ai fait sa fête à la musique. J'avais 10 kilos de tomates, ça fait un mois que je les avais mises à pourrir. Elles étaient prêtes à être envoyées sur tous les pignoufs qui ont fait du bruit hier.
Oh, Gérard, vous n'avez pas fait ça quand même.
Mais si, je me suis gêné, tiens. Et cette année, je ne me suis pas contenté des intermondialistes en Sarouel qui jouent du djembé dans les parcs. Hein. Je me suis procuré le programme officiel des festivités prévues dans mon arrondissement.
Aïe, 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 j'ai peur.
Ah ben non, ça a commencé à 10h avec la compagnie du Chahut. Rien que le nom m'énerve. D'après le programme, c'était une fanfare festive qui allait défiler dans la rue en faisant « Accroche-toi à ton siège », des reprises en mode déjanté des standards de la chanson française. Oh, les ai pas ratés, ces fumiers. Et pends les tomates.
Oui, bah, vous auriez dû rester chez vous, puis c'est tout.
Oh non, ce serait les encourager. Ensuite, j'ai eu Zork.
Zork.
Oui, Zork.
C'est qui Zork?
Un clarinettiste plasticien qui questionne le matériau sonore à l'aune des nouvelles problématiques de l'écosystème urbain.
Bah, c'était dans l'Ibé, ça.
Oui, bref. Un escroc subventionné qui se branle la nouille avec nos sous. Lui non plus, je l'ai pas loupé. Et paf, les tomates.
Bon, si je résume, vous n'aimez pas la musique, Gérard.
Mais si, justement. Mmh. Si, justement, j'aime la musique. J'aime tellement que je veux la défendre.
Bah oui.
Et c'est pour ça qu'après Zork, j'ai jeté mes tomates pourries sur Gaëtan.
Gaëtan,
je cite, la valeur montante de la nouvelle scène française, auteur de chansons douces amères sur l'air du temps.
Oui.
Avec toutes les tomates que je leur envoyais sur la gueule, ces chansons douces amères, j'en ai fait de la bolognaise. Fumier, va.
De plus en plus de personnalités véhiculent des thèses complotistes sur les réseaux sociaux, comme Jean-Marie Bigard qui envisage de créer sa propre chaîne sur YouTube. Voyons à quoi elle pourrait ressembler.
Bonjour à tous et bienvenue sur Allez tous vous faire enculer TV, la chaîne YouTube qui invite les médias officiels à aller tous se faire enculer. Aujourd'hui, je reçois le professeur Didier Raoult. Salut Didier.
Salut.
Alors Didier, on a découvert un cluster, hein, ton institut à Marseille. C'est quoi ce bordel?
Un quel cluster? C'est pas un cluster. C'est comme le Covid, ça n'existe pas. C'est un bobard inventé par ces fanas de médias parisiens pour me faire chier. Alors
ben justement, ça me rappelle l'histoire du gars. Il a une énorme envie de chier, le gars. Sauf qu'il a plus de PQ.
Ouais, alors, il a qu'à se torcher avec son bulletin de vote LREM, peu cher.
Ah, tu la connais? Ah bon, allez, ok alors. On tourne une petite page musicale avec le dernier tube de mon ami Francis Lalanne.
Ah bah oui.
Qui n'a pas sa langue dans sa poche, le gars. Le complot comme je l'aime, oui, il me délivrera. Il brisera l'anathème qui me tient loin du débat. Ben voilà, c'était Francis Lalanne, on passe à l'interview politique de la semaine. Je reçois Jean-Cul Mélenchon. Salut Jean-Cul. Je m'appelle Jean-Luc Abruti. Ah ben ouais, alors pardon, alors Jean-Luc, t'es au plus bas dans les sondages. Comment que ça se fait?
Mais ils sont bidons les sondages. Tout le monde sait qu'ils racontent n'importe quoi pour m'empêcher d'accéder à l'Isée parce qu'ils chient dans leur froc.
Ah ben justement, ça me rappelle l'histoire du gars. Il a chié dans son froc, le gars. Mais il a qu'à mettre... Il a qu'à mettre un slip dans l'urne, ça fera un vote de plus pour Macron. Ah ben il la connaît aussi, ben voilà, c'est la fin de l'émission. Demain je recevrai le professeur Jean-Pierre Rebouteux et on parlera de la 5G que les Illuminati cherchent à nous inoculer en rendant le vaccin obligatoire. Et en attendant, allez tous vous faire inoculer.
La, voilà. La militante féministe et élue Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, Alice Coffin, veut compter les femmes sur les scènes des théâtres parisiens avant de les subventionner. Mm-hmm. Pour réagir à cette mesure qui a d'ores et déjà créé la polémique, je reçois Fabrice Lucchini. Bonjour Fabrice.
Bonjour, elle est admirable, la Jade. Oui, elle fait son salut au soleil, elle a mangé ses graines.
Oui.
Et tout en zénitude, elle m'envoie dans la gueule du loup avec un sourire, l'air de rien.
Mais quoi, comment ça?
Tu la connais pas, la Coffin?
Ah bah si.
Ça, c'est pas une Agnès dans l'école des femmes de Molière qui dit avec une petite voix, les yeux mouillés, le petit chat est mort. Non, c'est une rageuse, la Coffin. Je te rappelle que c'est elle qui a dit que dans chaque mari, il y avait un violeur potentiel. Faut pas la faire chier, la Coffin. Si tu l'emmènes faire du jardinage et que t'as une paire de yeux-cou dans le slip, tu lui confies pas le sécateur.
Bon, néanmoins, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette mesure qui consiste, je le rappelle, à compter les femmes et établir des quotas dans les distributions théâtrales.
Je tomberai pas dans ton piège, la Jade. Et je vais te répondre, je suis d'accord avec Alice Coffin. Du coup, je te le dis tout de suite, on ne joue plus Molière, parce que j'ai vérifié, même dans les femmes savantes, on pourrait imaginer qu'il y ait des meufs, tu vois, genre Réunion Tupperware d'Europe Écologie Les Verts, et non, en non-mixité. Eh ben non. Le Poquelin, il a écrit 8 rôles masculins pour 5 rôles féminins. Déjà, on peut pas, là.
Ah ben là, c'est très embêtant. Alors, comment on va faire?
Faut tout réécrire. Clitandre, le soupirant d'Henriette. Eh ben, on va en faire une meuf. Eh ben, on va l'appeler Clito. Clitandre, Clito, il n'y a pas grand-chose à changer.
Bah, que c'est pas bête.
Il faut tout réécrire pour faire plaisir à Alice Coffin, l'autrice du génie lesbien.
Oui.
La pièce en attendant Godot. On va la renommer. On va l'appeler en attendant Goudou. Oh
bah. Ouh là là là, là vous allez loin, Fabrice.
C'est ce qu'il faut, là, Jade. Hein. Pareil avec le cinéma. Tu vois Les Douze Salopards, oui, chef-d'œuvre oui. de Robert Aldrich,
Lee oui.
Marvin, Charles Bronson, John Cassavetes, Telly Savalas. Et ben on va le réécrire. Il n'y a pas de raison que les 12 acteurs principaux soient 12 cums. On va mettre 12 meufs. On va appeler ça Les Douze Salopes. Tu vois, tu crois que ça lui plaira à la Coffin?
Alors, je ne suis pas sûre, Fabrice.
Eh ben oui, tu vois la Coffin, elle me fait penser à cette phrase d'Albert Einstein qui, malgré sa stache mou, n'était pas la moitié d'un con. Il disait « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, j'en ai pas encore acquis la certitude absolue. »
Encore quelques semaines de patience et Thierry Ardisson nous présentera enfin sa nouvelle émission « Hôtel du Temps » au cours de laquelle il interroge des personnalités disparues. Après Jean Gabin et Bourvil, ce sera au tour de Fernandel de se faire interviewer par l'homme en noir.
Salut les macas, salut les bébés, salut les macabés. Bienvenue dans Hôtel du Temps, où je reçois aujourd'hui une icône du cinéma ringard. Ouais. Je rappelle à la vie l'acteur à accent, Fernandel. De l'accent. Mais après toi, neige. Pourquoi cette moquerie? Pourquoi ce sacrilège? Et si je vous disais, genre de télévision, que c'est vous, pour moi, qui semblez un peu couillon? Non, je ne rougirai pas de mon fidèle accent. Je veux qu'il soit sonore, éclair, retentissant. Ouais. Alors, Fernandel, une question que tout le monde se pose. Si t'avais pas eu la gueule que t'as avec tes dents de cheval, est-ce que t'aurais fait carrière?
Mon cher
Thierry Ardisson. Permettez-moi de vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez, car il se trouve qu'en la matière, quand vous m'interrogez sur ma dentition avec votre dentier, dirons-nous flambant neuf, c'est un peu comme si l'hôpital se moquait de la charité, si je puis m'exprimer ainsi. Fernandel, tu sais qu'ici on aime la provoque, alors c'est le moment de la question archi-hard, la question archi-con, la question Ardisson. Alors Fernandel, si ta vache Marguerite te suce, est-ce que c'est trompé? Écoutez monsieur, j'en connais des malotrus. Je crois bien que même Pépone est plus civil que vous. Je ne dirais pas que vous êtes bon à rien. Je dirais plutôt que vous êtes mauvais en tout. Je ne sais pas si vous me saisissez, mais moi, je me comprends. Et ben voilà, c'était l'Hôtel du Temps sur France 3. Aujourd'hui, nous avons exhumé Fernandel. La semaine prochaine, nous déterrons Félix Faure pour lui demander si mourir pompé, c'est agréable.
Nous n'avons rien à ajouter.
Si
peut-être un mot, merci. On vous retrouve sur le site rtl.fr.
Qu'est-ce qu'on mange maintenant?
Les tartes à la tomate.
Ça tombe bien, j'en ai balancé hier des tomates.
c'est bien pour salon. Hein.
Vous savez, tout est fait en harmonie, tout est organisé.
C'est beau.
En fonction du texte.
Ça donne des envies.
Allez, à tout de suite avec notre Cyril National.
RTL Matin, Yves Calvi.
Cher Cyril, veuillez procéder à la réalisation de la tarte tatin salée qui nous était demandée par Colette, dite Coco, qui vit à Paris dans le 14e arrondissement. Nous vous écoutons.
Alors, on va faire une tarte tatin, donc un peu sucrée. On fait une pâte sucrée. Ah. On mélange du beurre pommade, un peu de sucre glace, de la poudre d'amande, un œuf. On mélange tout ça, on ajoute de la farine, on laisse reposer. Je vous donnerai la recette tout à l'heure, précise pour le site RTL.
Merci.
Ensuite, je prépare mes tomates que j'épluche.
Oui.
J'enlève l'intérieur. Je les mets sur une plaque et je vais les faire cuire tout doucement à 70 degrés pour qu'elles deviennent des pétales de tomates un petit peu sucrées.
Charmant.
Ensuite, je prends des escargots. Oui. Ça va vous surprendre. Non. Je les fais chauffer. Je vide les escargots avec le beurre à l'ail. Je hache tout ça. Je fais revenir avec des petits oignons et ça me fait ma base. D'accord. Et dans le moule, à l'envers, je dépose mes tomates, ma petite farce d'escargot à l'ail, je dépose la pâte, je cuis au four 25 minutes, je démoule, un petit filet d'huile d'olive, on a une tarte tatin sucrée, salée et c'est délicieux.
C'était très agréable. Tout est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci beaucoup Cyril. Et tout de suite, le point de l'actualité avec Jérôme Florent.
Une personne est toujours portée disparue à Beauvais après un violent orage. Un jeune homme serait tombé dans la rivière. D'importants moyens de recherche sont déployés pour le retrouver. L'hôpital a été partiellement inondé. Il y a eu près de 600 interventions de pompiers hier soir dans l'Oise. Dernière tractation en vue du second tour des régionales et des départementales. Les candidats ont jusqu'à 18h pour déposer leur liste en préfecture. Les jeux sont faits en Ile-de-France. France. La gauche fait cause commune face à Valérie Pécresse et en PACA, Renaud Muselier de LR a désormais le soutien de l'écologiste Jean-Laurent Félizia. Et puis en football, les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro sans rien faire grâce au succès de l'Autriche, de la Belgique et du Danemark. Les Français affrontent demain le Portugal. Ils devront l'emporter pour rester en tête de leur groupe.
Merci.